ce soir, dans le service après-vente de la F1.
Barcelone et Valence accueilleront le Grand Prix d'Espagne en alternance.
Robert Kubica fait son retour au volant d'une voiture de course.
Maria De Villota devient pilote par Borussia.
Lehman Brothers détient toujours 15% de la F1.
Le projet pur bombe le temps.
Steph Ford fait un carton plein.
Animateur et chroniqueur par sponsor.
Et Gus Gus fait la vaisselle.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Nous allons revenir sur toute l'actualité de la discipline de la dernière semaine. Pour m'accompagner, comme d'habitude, mon fidèle compère Dino est là.
Oui, je suis là.
Et, bien évidemment, on n'est pas seul. On a vu les deux premiers la semaine dernière. On regarde, on voit les deux suivants. Hein.
Et on va les massacrer, j'ai dit.
Oui, car le mot de la semaine, c'est le mot souffrance. Bonjour Gus Gus.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour.
Passez une bonne semaine.
Oui, très bonne.
Alors la semaine prochaine, ce sera meilleur.
On a réfléchi pour une question bien vache.
Ouais. Allez, salaud. J'ai dit.
La réflexion a été intense.
Ça y est, c'est bon, moins d'une semaine. Il ne reste plus que quelques jours. C'est bon.
Ah oui, le bout du tunnel.
Mais là, c'est pas Monaco, c'est Melbourne.
Enfin, le bout du tunnel, ça dépend pour qui. Les fans de Ferrari, je suis pas sûr que...
Ça va.
Bon, ça va. Hein.
Ah, ils sont trois aujourd'hui, c'est bien ça.
Non, il est où dans Brosio, il n'y a rien.
Non.
Il aime juste les alcooliques qui se vautent à Top Gear. Et qui...
Non, il a fait huitième.
Il a fait huitième. Il a fait 8ème, il est juste devant Démonil et Marc Weber. Et...
Oui, en même temps, il a fait son tour un peu le coude à la portière. Hein,
Bon, non, j'ai dit la vraie excuse, il pleuvait, c'est tout.
Non, il pleuvait pas. Bon, par contre, il a raté une vitesse, mais c'est pas grave. Ça.
Oui, il a juste dit oups.
En plus, c'est de mauvaise foi, Shinji, parce qu'en fait, ils ont 5 tours de tournage. Ils prennent le meilleur des 5.
Le coup de la portière. Il y a aussi eu une grande discussion sur ses cheveux, puisque il y a un sponsor anti-chute des cheveux.
Oui. Pourquoi il perd ses cheveux?
Non, mais ils ont un sponsor chez Lotus qui a un truc anti-chute des cheveux. Et donc le présentateur, parce que Kimi avait une casquette, a fait le malin en regardant sous la casquette si Kimi avait encore ses cheveux. Il les a encore, donc c'est bien, il pourra faire la pub.
Le mec, il est dingue, il a touché la casquette de Kimi.
Waouh!
Mais non, c'est pas anti-chute des cheveux, c'est contre les pellicules. Dandruff.
Ah, bah oui. Enfin, en tout cas, il a de beaux cheveux.
Ah oui.
Et il a une belle cicatrice aussi. Ah, ça a été la révélation de Top Gear. Oui. C'est qu'on a appris, en fait, que quand Lotus nous disait « Non, mais en fait, c'est pas grave quand il s'est cassé la motoneige », il a quand même une cicatrice au poignet de 5 cm qui nous indique, effectivement, ça n'était pas grave.
On va commencer l'émission par... La séquence que vous attendiez tous, ouais. Que l'on attend, nous, surtout depuis la semaine dernière.
Non, Chézy, nous n'avons pas d'esprit de revanche. Nous savons que nous avons été spoliés, mais voilà.
Sûr, oui. Alors, nous sommes plus grands que ça.
Voilà qui commence.
Oui, voilà.
Honneur vaincu.
Ouais.
Oui, puis comme ça, si la question est vraiment vache, on peut se venger encore plus, tu vois. On a le temps de réfléchir à un plan de secours. Ouais, c'est fourbe. Vrai.
On va faire une super question sympa, Chézy.
Oui.
Alors, messieurs, je rappelle la règle, nous avons 5 minutes pour vous faire deviner quelque chose qui se cache derrière une question, d'accord, soit un chiffre, soit une question normale, etc. Ça peut soit concerner un événement historique auquel nous voulons faire référence, ça peut concerner une statistique, ça peut concerner une actu, ça peut concerner à peu près tout, tant que ça concerne la Formule 1 et que ça a un rapport avec l'actu, enfin en tout cas avec soit le Grand Prix qui va venir, soit l'actu du moment. Voilà. Vous avez 5 minutes pour trouver la réponse. On attend bien évidemment une réponse précise, d'accord? Mais nous sommes très gentils, nous vous guiderons si c'est nécessaire.
Oui.
Alors monsieur, la question est la suivante. Pourquoi a-t-on récemment réentendu parler d'Elva?
Oh là là. Ça désigne une personne physique?
Non.
C'est un sponsor?
Non.
C'est un rapport avec l'Australie?
Oui.
T'as l'air convaincu là.
Ah, c'est un rapport avec l'Australie.
C'est un rapport avec l'Australie. Elva.
Ah, c'est le nom de la que Vettel a donné à sa voiture?
Non.
Non,
il y aura un truc porno dans le nom. Sinon.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on connaît pas encore le nom de sa voiture.
Je n'ai pas envie de la baptiser encore.
Il va l'appeler Daisy Duck, c'est pour ça.
Elva? Elva Chollier?
Non.
On en a parlé sur Fan F1?
Je ne crois pas.
Je ne crois pas, non.
Parce qu'en plus, il faut lire la concurrence pour pouvoir répondre à vos questions.
Je suis même pas sûr. Enfin, ouais. Je suis même pas sûr que la concurrence en ait parlé.
Pas très corporate quand même. C'est un acronyme, ELVA, LVA ?
Non.
Comment ça s'écrit ?
ELVA.
ELVA.
C'est le nom d'une ville ou...
Non.
Est-ce que c'est un diminutif ?
Ah, du... Oui, d'une manière, oui. Mm. En fait, je peux le dire, c'est le diminutif de ELVA, en français, ELVA.
Voilà.
Elle va bien se planter Ferrari cette année ?
Non, mais ça pourrait être. Reste 3 minutes, messieurs.
C'est le diminutif de ELVA en français ?
Oui, ELVA. Mais c'est pas un indice.
Ça vient de ELVA en français, en fait.
Bah, Maria de Villota, ELVA conduire pour Marussia ?
Non. Cherchez d'abord ce que c'est, ELVA.
Mais c'est le ELVA qui désigne quelque chose ou c'est le L tout seul ?
Non, non, c'est ELVA. En fait, ça fait référence à ELVA, le verbe aller, mais en fait, ça s'écrit ELVA, E-L-V-A. C'est juste que quand ils l'ont appelé ELVA, mais...
Je trouvais que c'était joli, quoi, donc voilà, ELVA.
Ça désigne une voiture ?
Oui, de manière générale, ça désigne une marque de voiture.
J'allais dire ça a un rapport avec la... Vas-y.
Non, j'allais dire que c'était le nom de la nouvelle Lotus qu'ils ont présenté au Salon de Genève, mais...
Non, c'est Evora.
Non.
C'est un rapport avec... Ah, je sais plus.
2 minutes.
C'est un rapport avec la fusion entre GM et PSA ?
Non. C'est avec le safety... la Formule 1.
Avec le safety car ?
Non.
Non.
J'aime bien cette question, je t'ai dit. Alors, je rappelle la question, pourquoi a-t-on récemment entendu parler de ELVA, sachant que ELVA est donc un constructeur automobile ?
C'est un constructeur qui souhaiterait s'engager en F1 ?
Non.
Ils vont collaborer avec une équipe pas forcément en tant que motoriste, mais...
Non.
Non.
Si je peux juste permettre un indice, ils ne vont pas collaborer avec une équipe.
Avec la FIA ?
Avec la FIA, non.
Ils vont fournir un nouveau motorhome à Bernie Ecclestone.
Non.
Non, non. Ils ne vont pas collaborer avec une équipe.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une piste.
Ils ont déjà collaboré.
Ils ont déjà collaboré, oui.
Ils ont collaboré, ouais.
Il reste un peu plus de 50 secondes, messieurs. Oh, je suis dit, on va marquer un point. Alors, ELVA, qui a collaboré avec une équipe.
C'est un constructeur français ?
Non. Non.
Européen, au moins ?
Oui, c'est européen. 30 secondes.
D'Angleterre ?
Oui.
Oui.
Vauxhall ?
Non.
Ça a rapport avec Caterham ?
Non.
Non.
Ça a rapport avec Marussia ?
Non.
On va toutes les faire. Hein.
Vous étiez pas loin en disant que ça avait peut-être un rapport avec Ferrari, mais c'est pas Ferrari.
Avec Toro Rosso ?
Alors, officiellement, les 100 minutes sont terminées. Hein.
Très bien.
Et bon, ça serait quand même bien que vous trouviez avec au moins quelle écurie ça a un rapport.
Voilà.
Pour 0 points. Il va s'en dire, n'est-ce pas, Chudu ?
Ouais, oui, on clarifie bien, c'est pour 0 points. Hein. Le temps est terminé.
Nous, on prévient.
On était pas loin quand on disait que ça avait un rapport avec Ferrari.
Ah, vous étiez plus proche en disant Ferrari qu'en disant Caterham. Quoi qu'en disant Marussia, vous étiez proche aussi.
Ah, tu nous aides, tiens, pour le coup.
Je comprends plus rien, moi.
Bah, c'est beaucoup plus proche de Ferrari.
C'est pas d'un point géographique.
Mais il y a des points communs avec Marussia.
GRP.
C'est Toro Rosso. Ils ont un moteur Ferrari, ils ont le français.
Non. Et on parle quand même, dans le lot, il y a quand même un rédacteur de FanF1. Avec quelle équipe Marussia pourrait avoir un point commun?
Avec McLaren.
Avec McLaren.
Bah, dis donc.
Ah oui.
Donc en fait, ELVA, c'est un constructeur automobile qui a pendant très longtemps eu la licence pour construire les châssis McLaren qui étaient engagés en supersport dans les années 60-70. Et en fait, ça faisait surtout référence à Peter Hag, qui était le patron de ELVA Cars. Peter Hag, qui nous a quittés au début du mois de mars, et qui a eu le droit notamment à un hommage sur le site de McLaren.
C'est quasi bien là, il y a que là qu'on en a parlé. Oui, hein.
Voilà. Et c'est vrai que dans les sites français, on n'en a pas beaucoup parlé, donc on voulait en profiter pour parler de ce personnage dont l'histoire, vous allez voir, est assez intéressante, puisque c'est en 59 donc, que Peter Hag et son père vont acheter l'usine Trojan. Ou Trojan, je sais pas comment on dit.
Trojan plutôt Trojan, à l'anglaise.
Qu'ils vont utiliser afin de développer leur distribution des scooters Lambretta sur le marché britannique. En 62, ils vont acquérir le droit de produire les bubble cars. Donc c'est, je sais même pas si on peut appeler ça une voiture. C'est une pull avec des roues.
Bubble car.
Voilà, qui vont être nommés pour le coup Trojan 200 et qui seront produites à 6000 exemplaires jusqu'en 1965. En 62, Trojan va racheter ELVA Cars, donc qui eux sont spécialisés dans la construction de voitures de sport, et ils vont lancer la production d'une voiture qui s'appellera la MK4 Elva Courrier. Mais le plus important, c'est qu'ils vont entamer un partenariat technique entre Peter Hag et Bruce McLaren afin que les voitures de sport de McLaren, et notamment la célèbre M1, soient construites dans les ateliers de Elva Cars à Rye, en Grande-Bretagne. Ensuite, la production va être relocalisée dans les usines de Trojan et va permettre à McLaren de fournir des châssis en Can-Am, donc championnat qui domine à l'époque, en Formule 5000 et en Formule B. Et au total, en quelques années, ce seront pas moins de 200 McLaren qui seront produites dans les usines de Peter Hag. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que au début des années 70, donc McLaren va décider de se consacrer exclusivement à la Formule 1, et Trojan va se retrouver sans client. Donc Peter Hag, lui, qu'est-ce qu'il va décider ? Il va décider de saluer les services de Ron Toranak, ancien ingénieur de chez Brabham, et il va monter sa première écurie de course avec la T101, qui participera au championnat de F5000, et qui est tout simplement basée sur la McLaren M21. Jody Scheckter va remporter le championnat américain de F5000 avec, puis en 1974, Toranak va dessiner la T102 de F5000, dont sera dérivée la T103, qui fera ses débuts, elle, en Formule 1 en Espagne, entre les mains de Tim Schenken, un pilote australien. Donc c'est là où il y avait un lien avec l'Australie.
Oh là 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 là.
Et l'Australien va terminer 2 fois 10e, en Belgique et en Autriche. Mais le reste des résultats ne sont pas forcément mirobolants. Ils vont faire, je crois, 6 Grands Prix. Avant, à court de budget, d'arrêter leur implication en Formule 1 et en sport, en compétition automobile en général, après le Grand Prix d'Italie, malgré des performances qui s'amélioraient. Et donc voilà, c'est l'histoire de Peter Hag qui nous a quittés à 82 ans. Et que si certains avaient suivi un peu l'actu, eh ben ils ont... Alors là... En plus, j'aime bien ça, c'est une spéciale, comme c'est un mec qui a produit des voitures, c'est une spéciale un peu ingénieur, un peu technique, hein. Donc c'était un peu pour toi, Gus Gus, tu devais la trouver, celle-là.
D'accord. Le gars, il a construit 3 voitures dans les années 70, il faut que tu le saches, quoi.
Bah, et voilà.
D'accord, mais c'est bien, c'est noté.
Voilà, c'est très très bien.
Donc, si tu dis, ça nous fait 5 à 3, on revient.
Ouais!
On en profite d'ailleurs, pendant qu'on parle des jeux, pour vous faire part d'une initiative qui va entamer sa 3e saison sur le site du SAV de la F1, donc savf1.fr. Vous pouvez vous inscrire à un jeu qui s'appelle le Fantasy F1, qui est animé par Bilo pour la 3e saison de suite. Et ce jeu, en fait, il consiste tout simplement à... Vous avez une enveloppe de 100 000 euros virtuellement. 100 millions.
On est en F1, 100 millions.
Oui. Vous avez une enveloppe de 100 millions d'euros, vous devez acheter 8 pilotes. Voilà, et puis en fait, après, les résultats des pilotes vous permettent de gagner de l'argent, enfin d'avoir des gains avec un classement des managers. Et puis, tout au long de la saison, vous pouvez faire des transferts, vous pouvez animer le jeu, jouer en équipe aussi. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, pour vous inscrire...
C'est entièrement gratuit.
C'est entièrement gratuit, hein. C'est vraiment, c'est purement amateur, hein. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur savf1.fr, et puis c'est la rubrique Fantasy F1. Voilà, pour vous inscrire, vous avez jusqu'à samedi matin, 7h, hein, l'heure du début des qualifications.
Voilà, l'heure des débuts des qualifs.
Et vous pourrez voir l'équipe du SAV, la SAV F1 Team à l'œuvre, encore une fois.
Non.
On est beau, fort et brillant.
Oui.
Bah, surtout moi, Shinji, parce que t'es un peu pas terrible à ce jeu-là.
Oh, ta gueule.
On peut s'insulter les uns les autres ?
Oui.
Ah, c'est génial, nous deux, je vais en préparer quelques-unes.
En plus, il n'y aura pas de SAV F1 Team, tu sais bien.
Oui, il y en aura. Il y en aura un, c'est-à-dire qu'on a chacun notre équipe à nous.
Quoi ? Tu vas oser l'appeler comme ça ?
Bah oui. Oh. Non mais pas la mienne, mais celle où sera tous deux juste pour le symbole. Elle s'appellera SAV F1 Team.
Oui, bien sûr.
Moi, j'ai mon nom d'équipe déjà.
Ah bah, moi, pareil.
Dino Racing.
L'écurie préhistorique.
Bon, voilà, c'était le petit quart d'heure auto-promo.
Auto-promo. On va passer au poleman de l'actu.
Ouais. Non, au podium de l'actu.
Au podium de l'actu.
Mais arrête de fumer, j'ai dit. On t'a dit, le jambon qui est dans le frigo, il est fumé, mais c'est pas, faut pas le fumer. Hein.
Podium, poleman, on s'en fout. De toute façon, il y a un nombre de places complètement fantaisistes, alors c'est pas grave.
Oui, c'est vrai.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Et donc cette semaine pour ce podium de l'actu, hein, ce podium choisi hein, par ces 6 personnes de talent que sont nous-mêmes.
J'adore.
Donc cette semaine, le podium contient 4 places.
Ouais.
T'es content, on était... fais pas cette gueule, c'est toi tout le temps qui fais des podiums avec des places bizarres.
Ouais, mais je préférais, voilà, c'est pas grave.
On y était.
Je trouve qu'à l'époque où j'animais cette émission, il y avait plus de plus de gens sur le podium.
Il aurait préféré qu'il y en ait 6, par exemple.
Bah, au moins 5, les miens.
J'aurais appelé ça un bipodium.
Voilà.
Et donc, cette semaine, comme première actu, on va revenir sur une actu dont on a déjà parlé, qu'on avait évoqué comme une possibilité et qui a été confirmée.
Non, mais c'est pas qu'il y a ça, je suis dit, comme actu, merde.
Bah si. C'est l'alternance entre Barcelone et Valence qui a été confirmée.
Je veux des noms, je dis. Qui a dit ça?
Alors, il y a Fab.
Mais moi. On s'en branle, Fab.
Il y a moi mais... et Ben.
C'est ça. C'était celle qui était en Valence, celle-là, tu vois. C'était ça ou Maria de Villota.
Elle était en Valence.
En Valence, merde. Elle a soufflé.
Donc bon, nous, Dino et moi, on en a beaucoup parlé, donc on est content, hein, vous en doutez. Enfin, moi, je suis content. Dino, t'es content?
Je m'en fous, en fait. je m'en foutais déjà un petit peu la semaine dernière.
Donc surtout, on a envie de savoir l'avis de Gus Gus et Ben.
Bah moi, il fallait 5 actus, donc j'en ai envoyé 5. C'était la 5e.
Celle qui restait, voilà.
Voilà. Il y avait d'autres options qui étaient on s'en fout.
Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette semaine, on va faire un sondage sur les trucs dont on s'en fout.
Il y aura le choix, vous verrez.
Parce qu'il y a...
Ouais, il y aura là, de la matière.
Il y avait effectivement de la matière. Non, bah qu'on aille plus à Valence, enfin qu'un an sur deux, c'est encore un an de trop. Parce que voilà, non, je trouve que le circuit n'importe rien, on s'ennuie, voilà. En même temps, on alterne avec Barcelone, qui, on l'a dit la semaine dernière, n'est pas non plus un Grand Prix particulièrement passionnant.
Ça libère donc, un créneau
pour la France, qui pourrait peut-être éviter d'alterner avec
Spa. Non, même pas, parce que il y avait déjà 21 Grands Prix au programme l'année prochaine. Donc en fait, ça fait juste que arranger New York, qui aura bien son créneau comme prévu.
Il faut prier pour que les circuits d'Austin et justement de New York soient produisent des courses intéressantes, sinon ce sera un gagné pour un perdu. Et...
Bah Austin dessiné par-t-il que ce serait quand même surprenant.
Ouais, mais il a pompé sur des virages intéressants, j'ai l'impression.
Oui, non, mais attention, je l'ai déjà dit, le concept de best-of pour les circuits, il y a un circuit qui l'a déjà fait, c'est Manicourt.
Voilà, j'allais exactement venir au même.
Voilà. Oui, mais Manicourt a pas piqué les mêmes virages. Enfin, sincèrement. Le mec qui reconnaît les virages de Manicourt, c'est quand même.
C'est clair.
C'est quand même super balèze. Alors que là, dans Austin, tu reconnais bien le stadium de Kenheim, tu reconnais bien le triple virage, là, le numéro 9 de Turquie, tu reconnais bien les virages de Silverstone. Voilà. Là, t'arrives, moi, tu dis, ah, tiens, je suis à Silverstone.
C'est sûr que c'est pas de la réinterprétation, c'est vraiment du copier-coller, hein, Austin.
Par contre, New York, si on a un beau Grand Prix à New York, voilà quoi.
Non, il est beau.
Ça m'étonnerait. Enfin,
sympa.
Oui, le cadre sera sympa.
Même le tracé, il est sympa. Bon, il y a une grande partie en pleine charge qui sera pas super fun, mais toute la partie en haut là, sur la petite côte là, ça va être super.
Enfin, ça sera pas très large. Hein. Faudra pas prévoir beaucoup de dépassements.
Mais voilà, mais on s'en fout, Shinji, des dépassements.
Moi, et personnellement, la semaine dernière, disait, mais Singapour, mais s'il y a pas la nuit, on s'en fout. Bah, c'est pareil.
Mais non, mais je suis bien d'accord.
Moi, sincèrement, les circuits en ville. Monaco, je vais pas dire que je tolère, parce que voilà, mais Monaco c'est historique, mais à part ça, les autres, c'est bon quoi. Faites des vrais circuits dans des vrais endroits.
Singapour, il est intéressant parce que la course dure longtemps, que c'est un défi physique sur les pilotes, moi je trouve.
Oui.
Ouais, sinon les virages.
Ouais, voilà, non mais après voilà,
succession de pour les pilotes, droit.
Voilà, le défi physique, il est aussi posé par la Malaisie, il est aussi posé peut-être par Bahreïn, voilà, mais ça n'empêche pas que le circuit il est pourri quand même.
Après, tracer un circuit en ville, l'idée de dessiner un circuit dans une ville, c'est toujours un peu particulier parce qu'il y a des contraintes qui sont propres au tracé des villes.
Mais justement, c'est là où New York est intéressant, c'est que d'abord, ils ont trouvé un endroit où il y a du relief. C'est ce qui quand même qui fait aussi le charme de Monaco, c'est que ça monte, ça descend. Enfin voilà. Moi, ce que je reproche un petit peu à Singapour, c'est que plus que les virages, c'est que ben voilà, c'est tout plat, donc t'as pas grand chose à faire derrière. Y a rien qui compense le fait qu'un virage, y a pas de, comment dire, de relief véritablement sur le circuit. Là, au moins à New York, y aura un peu de relief. C'est le même problème à Valence, quoi. C'est qu'il y a pas de relief. Hein. Bon, à un moment donné, il monte un petit peu pour passer sur le pont, donc il doit y avoir 2-3 mm, mais sinon, on peut...
Oui.
Alors, d'ailleurs, hein, sur le sondage qu'on a laissé la semaine dernière, vous avez été 77 à voter, et le Grand Prix d'Europe à Valence en voie de disparition du calendrier 2012 n'a reçu que 10 votes, soit 12,99% des voix, et se classe en 3e position. En 5e, avec 3 votes, on avait Barrichello disputera intégralement la saison 2012 d'IndyCar. En 4e place, avec 6 votes, le lancement tardif de Marussia et HRT, 7,79%. En 3e place, le Grand Prix d'Europe. En 2e place, 13 votes pour 16,88%. Hamilton évoqué pour remplacer Schumacher chez Mercedes en 2013. Et enfin, ils vont enfin gagner un truc cette saison. C'est grâce au SAV. C'est Alonso et Fry qui pensent que Ferrari va souffrir en début de saison. 45 votes, 58,44%. C'est un raz-de-marée, messieurs. Ferrari domine.
C'est pareil, Gus et Ben, un petit mot sur... Donc Alonso et Fry qui pensent que Ferrari va souffrir. En même temps, il n'y a pas qu'eux qui pensent que Ferrari va souffrir.
C'est votre droit de réponse, monsieur.
Oui.
Le seul qui pense que Ferrari ne va pas souffrir, c'est Massa. Il est persuadé qu'ils vont pouvoir faire un podium, donc il m'a beaucoup fait rire.
Oui.
Si Ferrari fait un podium, ce sera sûrement pas grâce à lui. Mais quoique je lui souhaite, hein, c'est pas ça. Mais non, je pense que Ferrari... honnêtement, si je devais faire un pronostic pour Melbourne, ce serait devant McLaren et Red Bull. Et pour la troisième marche du podium, Mercedes et Lotus. Bah non, il peut y avoir...
Non, Ferrari va détruire tout le monde.
Deux Red Bull, deux McLaren, et donc personne d'autre sous le podium. Mais
on y croit, que...
Oui. Non, c'est sûr que le début de saison sera pas à la hauteur des attentes, mais laissons-leur quand même le temps. La saison cette année, elle va être longue. Il y a 20 courses, 19 peut-être. Et il y a le temps de revenir, surtout qu'il y a encore les essais au Mugello...
Ils attendent une nouvelle carrosserie pour le Mugello.
C'est la cible, hein. Ils ont dit que pour le moment, dans les 4 premières courses, ils visaient rien, que voilà, enfin, qu'ils attendaient pas le podium. Bon, comme par hasard, les 4 premières courses, ça correspond avant les essais du Mugello. Ça correspond aussi à la date prévue apparemment pour l'introduction de la version B. Parce que c'est quand même, enfin, c'est le truc. Quand on regarde la Ferrari, c'est comme le truc. On se dit, mais même ça, enfin, ils auraient dû l'anticiper, quoi. C'est le fait que les pontons sont tout droits, font toute la largeur de la voiture, ils sont à peine sculpté, mais c'est pas Pat Fry qu'il fallait engager, c'est Giorgio Piola qui a fait un dessin pour la Gazzetta. les pontons dessinés par Giorgio Piola, ils sont juste magnifiques, quoi. Tu dis, je voudrais voir ça, et là tu vois la Ferrari avec ces deux pontons très droits sur le côté, mais c'est pas possible qu'ils aient toujours pas compris qu'il faut les sculpter, quoi. Donc, mais là ça y est, ils ont compris. J'ai un petit peu lent à réagir.
Et à la limite, ils auraient intérêt à ce qu'on n'aille pas à Bahreïn. Ça leur fait un grand prix en moins.
Oui.
Où ils vont perdre des points.
Exactement.
Non, c'est un circuit qui leur réussit bien, Ferrari, Bahreïn.
Ah bah, depuis que Toyota n'est plus là. Allez, on va passer à une autre actu qui a été citée 4 fois. Par moi, par Dino, par Fab et par Gus Gus.
C'est une bonne actu alors.
Vous... Oh là là. C'est cette nouvelle qui est venue de chez Marussia, hein, qui a engagé Maria de Bilota, pilote d'essai, troisième pilote.
Comme par hasard, la veille de la journée de la femme. Comme par hasard. Non, c'est pas comme...
Ouais, enfin, ils ont été assez stupides pour pas le mettre le jour de la journée de la femme.
Mais non, mais comme ça, on en parlait le lendemain, tu vois, le lendemain, le jour de la journée de la femme, on disait, ah, mais en plus, hier, il y a une équipe de Formule 1 qui a engagé une femme. Ça arrive souvent,
ce qui m'engage
des femmes, les écuries de Formule 1.
Pour leur talent, en plus, c'est ça qui est impressionnant.
Et c'est une info qui m'a valu d'être retweetée par le commentateur de la télévision suisse-romande, parce que j'ai mis sur Twitter, Salo qui fait des essais pour Ferrari, Marussia qui engage de Villota, on est déjà en avril ou quoi? Et je me suis fait retweeter par le commentateur de la télévision suisse. Donc voilà, quand je tweete des conneries, je me fais retweeter par des gens connus.
Voilà. Cet homme est un journaliste professionnel.
C'est ça.
Il a fruit, il a tout compris.
Ah, t'es pas le seul à avoir eu ton quart d'heure de célébrité cette
fois. Oh non, c'est bon.
On a le son, Dino, on a le son.
On a le son, ouais.
Oui, ben non.
Et alors, est-ce que vous pensez que McLaren et Red Bull seront au rendez-vous?
Donc, tu penses que Kimi va gagner à Melbourne? Bien.
Mais non, mais alors je dois dire, voilà, j'ai fait le last. Oui, j'ai eu la chance, grâce à Fan FM, d'être interviewé par une radio canadienne, la radio de Chicoutimi. Voilà. Donc, ami de Chicoutimi, si vous nous entendez, bonjour. Et c'est vrai qu'à la fin, il me demande un pronostic. Et je me dis, merde, on a parlé de tout le monde, Ferrari, Red Bull, etc. On n'a pas parlé de Lotus. Moi, je dis, allez, je vais pronostiquer Raikkonen chez Lotus. Au moins, ça donnera l'occasion d'avoir cité Raikkonen et Lotus, quoi. Mais non, j'ai l'impression qu'ils s'en foutaient un petit peu du retour de Raikkonen.
Bon. Bah, tu sais, autant qu'ils voient pas le retour d'un Canadien, c'est un peu logique.
T'aurais dû leur dire Jacques Villeneuve.
Non, ils auraient raccroché.
C'est vrai qu'on l'a pas entendu, lui, Villeneuve. Même pas sur le look des monoplaces, c'est très très surprenant.
Ah, faut lire F1 Racing.
C'est étonnant qu'il ait pas dit comme tout le monde que c'est moche.
Enfin, le mieux, c'est quand même Niki Lauda qui a comparé les voitures de cette année à son visage. C'est quand même magnifique.
Son visage, ouais, ça, c'est fort.
En disant qu'on s'habituait à tout, même à lui, qu'il lui manquait une oreille. Donc,
Oui.
Si, si.
Il a vraiment dit ça.
Ouais. J'adore ce garçon.
Sinon, donc, pour Maria de Villota, est-ce que c'est bien, finalement, pour la cause féminine dans le sport auto d'avoir en troisième pilote de
F1? Oh non. Ah, personnellement, j'aurais préféré Danica Patrick, moi, mais
On va dire que, moi, je pense que c'est...
Justement, Danica Patrick, elle est pratique, mais elle a une vraie expérience. Elle a fait ses classes.
Elle a déjà un plus beau palmarès.
Le palmarès.
Maria de Villota.
C'est juste incomparable.
Elle a un palmarès incroyable.
Bah non, mais il est pas forcément incroyable, mais par rapport à.
Quand on pense à son palmarès. Ah là 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 là. Je suis en train de me fâcher avec toutes les filles qui écoutent cette émission.
Oui, c'est pas très malin.
Non, mademoiselle, c'est pas.
Justement, Patrick a roulé en Angleterre, elle a fait ses classes en IndyCar, elle a eu des résultats. Bon.
Palmarès. Elle a gagné. Bon.
Oui, bon.
Même les filles,
d'accord.
Elles ont compris, j'ai dit.
T'aurais quand même plus confiance ça donnait un volant à Danica Patrick qu'à Maria
de Villota. C'est aussi ce qui est intéressant avec Danica Patrick, c'est un bon exemple, c'est que c'est quand même une fille qui a réussi quand même, elle a quand même remporté une course en IndyCar, elle a fait des pôles, elle a été régulièrement aux avant-postes, tout en jouant aussi la carte femme, voilà, enfin, elle a fait des pubs pour GoDaddy où elle joue vraiment sur son côté sexy et compagnie, elle a donné en fait, elle a réussi à mélanger les deux, c'est-à-dire le côté un peu bimbo et le côté en même temps athlète accompli qui gagne et qui fournit des résultats. De Villota, sincèrement, moi, c'est ce qui me rend un peu triste avec cette histoire-là, c'est que j'ai l'impression que cette fille-là, d'ailleurs elle-même l'a dit, elle sait très bien, elle a dit si jamais il y a un problème, faudra poser la question à John Booth pour savoir si qui est le pilote de réserve, parce qu'elle-même, elle sait très bien qu'elle ne le sera pas. Un peu dommage, moi, je trouve, pour les femmes, j'estime que les femmes mériteraient d'avoir une... C'est méchant ce que je veux dire, mais une vraie pilote. Elle a des Villota, c'est pas lui faire injure que de dire que, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'elle a le niveau pour être en Formule 1? Quand on se pose la question sur des mecs comme Maldonado, Pique, etc., où on dit, mais eux, ils ont ramené du pognon en oubliant au passage qu'ils ont remporté des courses en jeu, notamment Monaco, t'as envie de dire, voilà,
elle sera même pas en GP2
de Villota,
cette année, hein.
Qu'est-ce qu'elle apporte en dehors de, d'être une femme en Formule 1, d'être un outil marketing? Voilà, moi, j'estime que les femmes, elles méritent quand même un peu mieux que ça en Formule 1. Je préfère pas en voir plutôt que voir une femme dont je sais qu'elle a pas le potentiel. Elle roulera sans doute jamais officiellement.
Non, Gus, Ben.
Non, moi c'était une info, j'ai failli la mettre et je me suis dit en fait on s'en fout. Donc, enfin moi personnellement je m'en fous. Voilà. Donc ouais non, elle est là. Elle est là parce que voilà, mais elle fera jamais
parce que
un
c'est
grand
une
prix.
C'est ça qui est triste à dire.
C'est ça qui est dommage.
Ouais, mais c'est ça. C'est elle est là pour faire joli dans le paysage, quoi. J'ai envie de dire, c'est. Ben c'est comme beaucoup de troisième pilotes dans les petites équipes, hein. Ils sont là parce qu'ils ont ils apportent du pognon.
Non.
Même certains sont titulaires
Bianchi,
aussi.
Il
donc
pas de pognon. Il en coûte plus à son équipe qu'il en apporte.
Non, je parle pas forcément. je pense pas forcément Bianchi, mais tu regardes le pilote de réserve Van der Garde chez Caterham.
Ça c'est magnifique. Van der Garde pilote de réserve chez Caterham. Et derrière, on annonce qu'en fait, il y a un autre pilote qu'on engage. Sander Rossi, qui lui fera des essais, hein, le vendredi matin, apparemment. Oui, ça veut juste dire que Van der Garde, il ramène juste le pognon et qu'Alexander Rossi, lui, c'est le long terme.
Il y en a un qui est troisième pilote et l'autre pilote de réserve. C'est comme chez Lotus, le Renault l'an passé, ils avaient une ribambelle en 2010 de pilotes. Il y avait D'Ambrosio, Hoppingtung et un troisième.
On a eu peur qu'ils en viennent à mettre Hoppingtung dans la voiture. Hein.
Alors que c'était le pilote de Roadshow.
Troisième pilote.
Dans ce cas-là, on va passer.
Ah non, mais alors, j'en profite pour relancer l'appel aux femmes.
Ah.
Mademoiselle.
Ah bah après ce que tu viens de dire, tu vas avoir du succès.
J'ai rien dit. Non mais justement, parce que nous on n'a pas envie de faire comme Marussia. Nous on a envie de mettre vraiment des femmes devant. Donc on rappelle qu'on a un rêve cette saison, ça serait de faire une émission avec des filles. Voilà. Shinji, moi et des filles.
Oui. Voilà.
On
serait pas là.
Non, voilà, vous serez pas là. On est prêt à dégager nos chroniqueurs habituels pour juste.
À vous dégager direct.
Voilà, pour mettre des filles. Donc voilà, si vous êtes des filles, je pense notamment à Maëlle, je crois aussi à Lélex, qui est fan de Timo Glock, hein, et qui participe régulièrement sur FanF1. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, hein, sur contact@savf1.fr. Si vous voulez participer à l'émission, on essaiera de faire un truc avec une émission avec des filles pour avoir votre point de vue de fille. Voilà, pour pas laisser les machos qui pullulent dans cette émission à parler.
Oui, puis comme ça, on pourra un peu parler de Timo Glock, c'est voilà. Gentil.
Puis on parlera vraiment du palmarès de Danica Patrick.
Ah, son ça palmarès. Cool. Et tu l'as vu dans FHM, son palmarès?
en couverture.
Allez, troisième actu. Une actu qui ne concerne pas cette année, qui ne concerne pas les années précédentes, mais déjà le futur. Puisqu'on a appris que le projet pur... parce qu'il ne faut pas dire pure, il faut dire pur. Et ben, il pourrait être prêt non seulement dès 2014, mais dès 2013.
Mais qu'est-ce que ça peut être ?
Pourquoi je me la pète ?
Pas toi, les mecs de pure.
Ah.
Oui, nous, on peut être prêt dès 2014, c'est pas le problème.
Dès 2013, tu vois. Qu'il le soit pour 2014, c'est normal, mais ils peuvent l'être dès 2013.
Ouais, dès 2013, et personne n'a encore acheté le moteur, c'est bête. Hein.
Ouais, mais il faut voir ce que va devenir Cosworth aussi. Hein.
Oui, mais. C'est très clair dans leur déclaration, hein, parce que quand ils parlent des autres motoristes, donc ils parlent de Mercedes, ils parlent de Renault, ils parlent de Ferrari, et c'est tout.
C'est ça, on dirait Tony Fernandez dans une interview insolite que Tino a réalisée. Il oublie Trulli.
On sent que déjà en priorité, ils visent, on va dire, deux équipes qui sont actuellement en Cosworth.
Pur, c'est, moi, c'est une énigme, je sais pas. On sait pas d'où vient le projet, qui le finance, personne n'a encore acheté leur moteur, et ils y reviennent régulièrement en disant, soit pour dire, quand la réglementation est passée du 4 cylindres au V6, oh mon dieu, on va être en retard de 6 mois, et ici, c'est, on en avance de quasiment, 6, quoi.
Donc, ouais,
je sais pas.
Ce qui m'inquiète, c'est ils font une remarque parce que ils disent que dans le règlement, les motoristes normalement ne doivent motoriser que 3 écuries et que Renault justement motorise 4 en précisant oui, mais c'est pour motif exceptionnel. Et j'ai peur que tu sais que l'an prochain ils nous sortent un petit volet judiciaire, un truc comme ça, tu vois, en disant mais Renault doit se séparer d'une des équipes, tu vois, un bel embrouglio comme on aime bien, tu vois, en F1.
Mais c'est vrai que je pense que pour motoriser Williams, Renault a dû demander l'autorisation des autres, effectivement, au-delà de 3.
Normalement, ouais, c'est 3. Ouais.
Normalement, c'est 3, ouais.
Dino, non, tu t'en fous, Dino.
Moi j'attends surtout de les voir. C'est-à-dire, pour le moment, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de paroles.
C'est de l'annonce.
Voilà, maintenant, tant qu'on n'aura pas vu le bloc moteur, tant qu'on n'aura rien d'autre, j'ai envie de dire, comme tu l'as dit, Ben, ils n'ont pas de clients, ils n'ont pas d'écurie, on ne sait pas avec qui s'associent. Il y a même pas l'ombre d'une discussion ou quoi que ce soit, donc c'est un peu difficile de les juger pour le moment, mais on verra l'année prochaine. Moi j'aime beaucoup cet argument qui consiste à dire si jamais la FIA décide de revenir en arrière, ce qui est très peu probable, enfin la FIA va pas dire ah en fait les moteurs on va les mettre dès 2013 en mettant quasiment tout le monde dans la merde, notamment Ferrari qui est supposé être l'une des équipes les plus en retard. Et je vois mal quand même la FIA partir comme ça, mais j'adore cet argument qui dit au cas où
on est prêt,
au cas où qu'il y aurait une météorite qui tomberait sur nous, on sera prêt.
Au cas où il y a une faute d'impression dans le règlement. Oui.
Parce que je pense que Mercedes et Renault devraient déjà faire tourner aussi leur moteur cette année, voire cet été, si les souvenirs sont bons. Donc techniquement, ils pourraient aussi être prêts pour 2013.
De toute façon, même au niveau du choix des écuries, ça va être compliqué parce que on a vu aussi que, notamment Renault, par exemple avec Williams, ils verrouillent déjà sur un certain nombre d'années. Le fait d'être dans les équipes. Je pense que Williams, ça va pas être que pour 2 ans hein, qu'ils vont être là. Ils essaient de verrouiller quand même au maximum pour éviter justement d'être mis en concurrence avec quelqu'un d'autre.
Ils ont une option pour 2014,
ouais.
Williams.
2014.
Ouais, bah oui, chez Renault, Red Bull, ils vont pas partir, à mon avis, ça serait étonnant.
Oh, non.
Mais après, chez Williams, bah, c'est tout nouveau.
Il y a pas un producteur, genre Volkswagen ou Audi, ou qui se met, qui travaille actuellement sur un projet
oui,
à
oui,
part.
Mais...
Moi, je pense que le problème, c'est que si par exemple, t'as un constructeur comme Volkswagen qui arrive en début 2013 en disant « Ah, on a un moteur qui est prêt à tourner et tout, il a déjà roulé parce qu'ils ont tout gardé secret », bah, Pure, ils vont jamais exister. Enfin, voilà, c'est ça aussi le risque derrière. C'est que pour moi, Pure parle beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets qui, pour le moment, ne parlent pas, mais qui sont vraiment...
Ah, je ne pense pas, parce que même si rien n'est officiel, je pense qu'il y aurait des choses, même des rumeurs qui auraient fuité. Et puis, je pense aussi que beaucoup, en fait, attendent de voir ce que vont donner, justement, les moteurs.
Ouais.
Au lieu de se lancer comme ça, justement, face à des équipes qui sont déjà installées en F1. Donc, peut-être, si tu veux, qu'elles envisagent de faire des programmes moteurs, mais je pense que ça sera pas pour 2014, ça sera peut-être pour 2015, 2016, voire 2017. Attendre de voir quand même ce que sont ces moteurs qui sont quand même tout nouveaux.
De toute façon, si Red Bull devait quitter Renault un jour, ce sera pour un autre constructeur, ce sera sûrement pas pour
oui,
aller chez Pure.
Ce sera pas pour
de
Pure.
De toute façon. Donc il reste Lotus et Caterham. Mm. Plus évidemment les deux clients de chez Cosworth qui. À la limite, pour Greg Pollock, c'est quasiment assuré qu'il va les avoir. Donc,
Oui, enfin, après, on sait pas. Hein, peut-être que Cosworth va quand même se lancer, même si. Alors, eux, c'est pas comme Pure, hein, on les entend pas.
Il n'y a aucune communication.
On passe à la quatrième actu.
J'ai trop vite, Shinji, là. J'ai trop peur. J'ai rien à voir à couper.
Sois content. C'est l'actu qui a fait le plus, je vais pas dire l'unanimité, parce qu'elle a fait 5 sur 6. Alors, c'est une actu, mais qui en fait regroupe deux actus. Hein, mais on peut pas non plus parler de l'une sans l'autre. C'est les nouvelles de Kubica.
Ah.
Donc en fait, on l'a tous sélectionné, sauf Steph Kerr, mais Steph Kerr a fait des choix très bizarres. On verra. Mais
c'est étonnant qu'il n'ait pas vu Kubica, parce que Steph Kerr est en train de Kubica.
Voilà. Non, mais Steph Kerr, enfin, voilà. Parce qu'il faut quand même balancer, hein, faut le dire. Mais bon, revenons sur Kubica. Donc, deux nouvelles extrêmement contradictoires, puisque Alguer Suari nous disait qu'il avait des nouvelles de Kubica assez dramatiques, puisqu'il nous disait que, bah, il n'avait pas de motricité dans la main, qu'il pouvait à peine tenir un verre, ce qui est quand même plus qu'inquiétant. Et je sais pas combien de jours c'est arrivé à plus tard. Peut-être maximum une semaine, pas beaucoup plus, hein.
Même pas deux jours, je crois.
Deux jours?
Franchement, c'est... Parce que moi, j'ai pris l'actu de la semaine, donc...
Voilà, on nous apprenait la communication autour de Kubica, nous... Enfin, en tout cas, il y avait la rumeur, parce que ça n'a pas été confirmé. Hein,
alors
a
oui, alors justement, sur Omnicorp...
Ah,
sur
est-ce Omnicorp, qu'on a des images?
Il y a une image qui vient d'être publiée de... Alors, ils affirment que c'est une image de Robert Kubica au volant d'un karting.
D'un karting,
récemment.
D'accord, parce que voilà. la rumeur dit qu'il serait même au volant d'une
oui,
Skoda WRC.
Le mercredi, il y a deux
donc
semaines.
Donc ça paraît, on va dire, assez peu compatible de ne pas pouvoir tenir un verre et tenir une Skoda WRC.
Mais c'est...
Regarde,
mais
Kimi Räikkönen, il arrive à tenir un verre, mais en même temps, en WRC, c'était pas terrible. Tu vois, c'est pas forcément oublié, il s'est dit.
Un verre dans une main, un cornet de glace dans l'autre.
Voilà.
Mais c'est très bizarre ces photos sur le karting parce que son casque c'est un casque de BMW donc ça rend l'image pas très crédible quand même.
Ouais,
je dis pas que c'est une vieille image de karting qu'il a fait avec des potes il y a longtemps mais c'est pas son casque le plus récent, c'est ça que je trouve bizarre.
Oui. Enfin, à la limite, on imagine soit un casque neutre, soit son dernier casque chez Lotus quoi, mais pas
ouais. Mais moi, sur cette info-là, au-delà de l'état de Kubica, c'était la bourde d'Alguer Suari, qui vient d'être annoncé consultant pour la radio sur BBC, et qui, première déclaration, finalement, en tant que consultant, c'est une connerie. C'est-à-dire qu'il te lâche une info, et deux jours après, on dit le contraire. Donc, c'était plus pour ce côté-là que ça m'a fait rire, que vraiment pour l'état de Kubica.
Et en plus, c'est pas la petite info, quoi, qu'il lâche, c'est quand même un truc...
Bah oui, mais en même temps, sur le verre, je me suis dit, c'est après tant de temps, c'est quand même étonnant qu'il n'ait pas récupéré plus, parce que toutes les nouvelles qu'on a eues jusqu'à présent, ça, il récupère bien, blabla, machin, et là, on
non, mais ça
se
trouve, c'est que Alguer Suari, il a des vieilles infos.
Il va pas si bien que ça.
Alors qu'il a encore des infos
oui, parce que...
du mois d'avril dernier, tu vois.
On n'est pas aidé par la communication de Kubica, on peut pas dire qu'elle a été extraordinaire, c'est-à-dire que on a juste voilà des communiqués de temps en temps en disant ouais bon oui, ça va bien ouais bah on aimerait un peu plus quand même.
Ouais, récemment c'était quand même plutôt silence radio hein, je trouve.
Ouais, à part toutes les rumeurs qui tournent, qui forcément un S parce qu'on n'a pas d'informations, donc ça crée forcément du mystère autour de Kubica.
Bon, de toute façon, on va en reparler pendant l'été, hein.
Non.
Ça chez Ferrari. Hein.
Non, on a déjà un morceau, on va prendre.
Attends, il paraît qu'il a signé un pré-contrat. Bon, avec son autre main, mais oui, parce que s'il tient pas un verre, il doit pas tenir un stylo.
Ah, je sais pas,
mais au final, c'est peut-être pas incompatible le fait qu'il ait une main qui soit pas encore terrible et le fait qu'il conduise en rallye. Rappelez-vous, en 2010, ça ne dérangeait personne d'aller dans le raidillon avec une seule main et l'autre main sur le F-duct, quelque part. Donc oui, les pilotes étant un peu casse-cou, moi je pense.
La main dans le
ah oui, le raidillon avec la main collée contre le trou du F-duct, hein, ça les dérangeait pas.
Mais ces mecs sont tarés.
Okay, oui. Par contre, le DRS.
Fixe image d'Alonso, une main sur le F-duct, l'autre je sais plus sur quoi, et ne tenant plus le volant.
Mais ça c'était à Valence, ça.
Pour la sécurité routière.
C'était à Barcelone.
Ouais, mais bon quand même. Bonjour, je me balade sur une F1 et je ne tiens plus le volant. Non, quelque chose à rajouter sur Kubica ?
Moi, je suis pas optimiste, personnellement.
Ah, t'es pas optimiste ?
Non. Il y a Anguille Souroche quand même, parce que Alguersuari, il est quand même pas complètement bête. Je pense pas qu'il aurait fait une déclaration sans être sûr de ses sources. Je pense pas qu'il prenne le risque de sortir une première info comme ça et d'être complètement à côté de la plaque.
C'est vrai que le fait qu'il dise rien, on a l'impression qu'il cache quelque chose. Et on se doute bien que... ils auraient plus de raisons de cacher si ça se passe mal que de cacher si ça se passe bien.
Oui.
De toute façon, moi, ça fait longtemps que Kubica ne reviendra pas. Même si on a parlé tantôt d'images avec des pilotes qui tiennent le volant à une main, tu peux pas monter dans un paquet de Formule 1 si t'as pas tes deux mains à 100%. Oui. Mais à mon avis, c'est pas possible qu'il récupère complètement. Oui, maintenant, il pourra reboire un verre tranquille, hein, mais. Mais dans une Formule 1.
Non, mais en plus, ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un contexte de communication autour de Kubica. C'est-à-dire que le fait de rien savoir, c'est pas trop gênant. Mais c'est surtout que on a vraiment l'impression que la communication de Kubica, de Daniele Morelli, elle est très bizarre. Enfin, là, je vois, il y a la nouvelle comme quoi il aurait piloté une WRC il y a 15 jours. Et le même jour, dans la Gazzetta dello Sport, il y a une interview de Gérard Lopez, le patron de Lotus et de Genii, qui revient sur les conditions de la fin en eau de boudin de l'aventure avec Kubica, où il dit côté de l'entourage, c'est son entourage qui lui ont mis la pression pour qu'il reprenne, ou voilà. Donc il y a vraiment, je trouve que il faut se poser aussi des questions peut-être sur l'entourage de Kubica. Moi, je trouve que l'entourage de Kubica aujourd'hui, il peut vraiment me soulever des questions parce que ça me paraît très très simple.
Qu'il y avait eu au mois de novembre, justement, juste avant l'annonce de Kimi, hein, où là encore c'est pareil, on savait pas trop où tout ça allait.
Ce qui est bien, c'est que, enfin, pour l'année pour Lotus, c'est qu'ils sont un peu sortis de ça parce que l'an passé, oui, ça a été aussi, il va pas revenir, ils savaient pas trop. Donc là, ils sont clairs, ils ont
Ferrari deux pilotes qui sont dans ce cas-là. Oh,
non, mais chez Ferrari, ils vont prendre Perez en 2013.
Ouais, ils vont prendre Hülkenberg. Non, ils vont prendre Senna parce que Senna, il a qu'un contrat d'un an. Donc dans un an, Senna, il est libre, on peut l'embaucher.
Oui, pauvre.
Ah, imagine,
ils vont prendre Davy Lotta.
C'est le seul endroit où son oncle n'a pas été. C'est la seule grande équipe où son oncle n'a pas été.
Il aura tout fait, en fait. Lotus, HRT, Ferrari et Williams.
Il manque un bout à l'autre de la grille.
Non, mais ça, c'est... Ah non, tu parlais d'HRT, excuse-moi. Non, c'est d'un bout à l'autre de la grille. Je pensais que tu parlais d'une écurie avec une livrée magnifiquement rouge.
Non, ne remue pas le couteau, j'ai trop mal. A passé une bonne saison, tiens.
Ouais, ça va. Bon, vraiment, il y a le SAV.
Soyez optimiste.
On sera optimiste à Barcelone.
Après le Mugello.
Peut-être. Ah là, ça se trouve, la semaine prochaine, vous allez me retrouver en faisant la fête. Ouais, Alonso, il a gagné.
C'est vrai.
Ah non, mais ça serait bon.
Réveille-toi, Dino, réveille-toi. Ouais.
Oh, mais tu sais, Dino, même s'il marque un point, tu pourras faire la fête.
Oui. Bah, faut se rappeler quand même, c'est il y a en 2009 où ils ont passé les courses en disant bon, là ça fait 20 ans qu'ils ont plus marqué un seul point. Là, ça fait 30 ans. Là, ça fait 40 ans.
Ah, écoute, c'est vrai que derrière deux Red Bull, deux McLaren, deux Mercedes,
deux Force India, deux Lotus,
deux
Sauber,
non, mais écoute, le temps s'annonce peut-être un peu maussade. Donc, avec un peu de bol, tu sais, s'il y a des éliminations, ils peuvent peut-être passer 7e, 8e.
De toute façon, en Australie, il y a souvent course par élimination. Donc, s'ils restent en piste.
Voilà, ce... faut être marathonien, c'est... Voilà.
Ah, puis, suffit que Hamilton il reste sur sa lancée de 2011 et il peut nous faire un bon carnage au premier virage.
Et on l'a pas changé.
Mais non, on a changé ses rétroviseurs, tout va bien.
Ah non, non, on en parlera plus tout à l'heure.
Ah. Allez, dans ce cas, on va passer aux autres actus, on va voir quelle est l'actu dont on s'en fout.
Oui, hein. Ah, il va y avoir bagarre parce qu'il y a beaucoup de déchets.
Là, il y a beaucoup de déchets cette semaine. Hein. Alors, dans l'ordre, on a Lehman Brothers qui détient 15,3% de la F1.
C'est Benz.
Non,
même pas.
Mais on s'en fout complètement.
Moi, c'est n'importe quoi.
Mais il y a pire.
Bah non, on a trouvé là. C'est bon.
Ah non, il y a pire.
Qu'est-ce qu'il y a pire? Il y a des trucs que j'ai
mis. Il y a Pirelli qui entame sa deuxième saison de F1.
Qui c'est qui a mis ça?
C'est par Steph.
C'est vrai?
C'est par Steph.
Mais
il y a pire. Mais il y a pire. Il y a Di Montezemolo qui revient à la charge de la troisième voiture. Ça, c'est tout récent. C'est d'aujourd'hui même.
Oui, c'est moi qui ai mis ça.
Oui, et Steph aussi. Ah bah là, oui, on va beaucoup entendre parler de Steph là dans cette rubrique. Nous avons aussi Vettel qui n'a plus de sponsor personnel. Et devinez qui c'est qui l'a choisi ?
Steph ?
C'est Steph !
Ah, je suis fort, aujourd'hui je suis en feu, je suis dit.
Nous avons aussi la santé de Williams qui s'améliore, la santé financière, hein, pas de Frank Williams malheureusement. Enfin...
Des fois qu'ils se remettent à marcher.
Ça c'est de Fab, hein. Donc c'est un article, hein, qui nous a rappelé que visiblement la santé financière de Williams s'est améliorée, surtout parce qu'ils ont baissé leur salaire, vachement bien. Nous avons aussi Codemasters qui prolonge son contrat pour les jeux de
Formule 1. Ah, j'ai failli le dire, ça.
C'est Ben.
Ça, c'est j'ai pas vu, ça.
Non, c'est
combien
Ben.
D'années
c'est Ben. Ben.
Ils ont dit pour plusieurs années, mais ils ont pas précisé.
Ils ont même dit...
J'ai cherché.
Ils ont même dit qu'ils allaient développer un jeu, apparemment, pour le jeune public. Un jeu online pour le jeune public d'ici la fin de saison. Il y a déjà un jeu online, mais apparemment, il y en aura un pour le jeune public.
Un truc simplifié et tout.
Ça ne nous concerne pas.
Alors, nous avons aussi Massa qui envisage le podium avec Ferrari. C'est de Ben.
Ouais. Quel déconneur, ce Ben.
J'ai mis ça, moi.
Attends, t'as raison.
Ah ouais, je l'ai mis. Effectivement. Ah ouais. Mais il n'y avait pas grand-chose cette semaine aussi.
T'inquiète. Hein. Puisque nous avons Steph. Alors, je sais pas ce qu'il lui a pris à Steph. Hein, c'est en cinquième actualité. Steph a mis le SAV de la F1, le MAC du 7 mars.
Ah non. Il faut quand même dire que l'émission a très très bien marché. Et qu'on peut vous en remercier parce que c'est l'un de nos meilleurs scores d'émission.
Voilà. En fait, je
même
propose
si on a un petit peu trop ri.
Ah, non, mais on le fait exprès.
Moi, je propose que là, pour cette rubrique, on change le nom. C'est plus la faute dont on se fout, c'est la faute de Steph.
Non, on a de la chance que Steph n'en a donné que 5. Donc, c'est bon.
Oui.
C'est bon.
il a fallu qu'il s'arrête.
Gus, tu nous as donné le duct de Mercedes, une solution dans le vent. Qui a fait ce titre et qui a fait cet article?
Alors, c'est Fab qui a écrit l'article et c'est un article collectif.
Ah,
c'est un article collectif.
Gus nous a aussi mis Ferrari qui veut s'inspirer de la Squadra Azzurra de 82.
Ah,
parler de Ferrari, voilà quoi. C'est ça.
Voilà. Donc, c'est vrai qu'en 82, ils avaient mal commencé, ils ont bien fini. Ouais. Donc, tu m'étonnes qu'ils veulent s'inspirer de ça. Dino, tu nous as mis Alexander Rossi chez Caterham. C'est pour ça que je suppose en plus que tu t'en as un petit peu parlé.
Ah ouais, je me suis dit ça va pas passer donc. Essaye de le glisser, dis-nous.
Nous avons aussi Pirelli qui va utiliser la R30 pour ses essais. Ils ont enfin trouvé leur voiture pour faire des essais.
En plus, c'est super important quoi, c'est la R30. C'est Maya l'abeille, elle va revenir.
Moi, ils vont la repeindre en noir.
Ils vont la repeindre.
Oui, ils sont couillons, ils vont la repeindre. Allez, noir et jaune.
Ils vont économiser la moitié de peinture parce qu'ils ont juste à repeindre le jaune.
Non, c'est pas couleur carbone. Enfin, ils vont la laisser en carbone.
Et enfin, Dino, tu nous as mis Bernie qui pense au budget limité.
Ouais, bah ouais.
Quelle nouvelle.
Bah oui.
Il pense.
C'est bien. Déjà, il pense. Alors, déjà, dans ce titre, déjà, c'est la leçon de penser. Des clôtures, oui. C'est pas fréquent.
Mais il pense beaucoup.
Il pense souvent.
En ce moment.
Oui, voilà.
C'est ça à quoi il pense qui pose problème souvent. Alors, messieurs.
Ah, la liste, elle est longue. Hein.
Moi, je ferai un combo, Steph. On s'en fout de toutes les actus de Steph.
Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un sondage avec toutes les actus qu'a proposé Steph. Et comment on dit, laquelle les intéresse vraiment le moins.
Le moins.
Bon, on va retirer le SAV, parce que bon, c'est pas... Voilà, on n'a pas non plus envie que vous lui donniez la meilleure note, mais...
c'est clair.
Mais au moins les 4 autres, parce qu'il en a mis 4 autres, je me suis dit, non.
Oui,
les 4 autres, on les met au sondage.
Je signe.
De toute façon, on mettra système vient dans la prochaine émission. On va revenir. Maintenant, laquelle on s'en fout.
Lehman Brothers.
Franchement, Lehman Brothers.
Ouais, bah ouais. Alors quand même, moi, ça m'a vachement rassuré de l'apprendre, tu vois, de me dire, ah, dis donc, un truc qui a coulé déjà il y a 2-3 ans, qui a mis en branle tout le monde, ah, ils ont 15% de la F1, chouette. Mais ouais, Brothers, ouais.
Bah, moi, par défaut, parce que je l'avais choisi, celle-là, je vais dire Massa qui envisage le podium avec Ferrari. Mais voilà.
Mais si tu l'avais choisi, c'est parce que t'es intéressé, j'ai dit.
Ah, mais non, justement, Lehman Brothers, je l'avais choisi. Ah, c'est pour ça que je dis, je vous rejoins pas, parce que je l'avais choisi, je vais pas dire qu'elle m'intéressait pas.
Bon, c'est vrai. T'aurais l'air con.
Alors que Steph, lui, il va avoir l'air con.
Donc c'est quoi les 4 actus de Steph?
Donc, on va vous proposer comme sondage, quelle est l'actu de Steph Core dont tout le monde se fout? cette semaine. Écoute, ça va être le quarter de gloire de Steph, hein. Donc, nous aurons Lehman Brothers qui détient 15,3% de la F1.
Ça va gagner, ça.
Bon, ça dépend. Il y a quand même Pirelli qui entame sa deuxième saison de F1.
C'est vrai qu'on s'en fout aussi, ça.
C'est mais c'est surtout ce que j'aime bien, c'est que c'est la non-info, en fait, parce que tout le monde est courant qu'ils allaient entamer leur deuxième saison.
Dimonte Zemolo qui revient à la charge de la troisième voiture.
Ouais, c'est un marronnier, ça. Tous les trois mois, il fait avec. J'aime bien son excuse, cette fois-ci. C'est pour aider les pilotes italiens.
Non, mais en plus, c'est pas ça, c'est qu'il propose pas la troisième voiture. C'est qu'il propose les équipes clientes.
Ah oui. Mais attends, pourtant.
Il a fumé, Steph.
Pourtant, je vais reprendre le mail, hein. Il me semble. Non, mais là, que... Parce que j'ai bien dû copier le.
C'est moi qui l'ai mis.
C'est toi qui l'as mis?
Je crois, ouais. J'ai mis Monte Zemolo et les châssis clients.
Bah, si, parce qu'il a pris une actu de Next Gen Auto, troisième voiture, dit Monte Zemolo, revient à la charge.
Il a pris une troisième actu de qui?
Sur FanF1, il a écrit Monte Zemolo veut des châssis clients pour aider les pilotes italiens. Il faut aller sur les sites de référence. Voilà.
Mais c'est pas grave, je le laisse comme ça sera encore plus con. Et donc en quatrième, qui peut être pas mal, un Vettel qui n'a plus de sponsor personnel.
Ah, c'est vrai que ça aussi, on s'en fout un peu.
On s'en fout un peu.
je vais prendre Salah groupe, plutôt que Lehman Brothers. Je vais prendre Salah parce que je m'en fous en fait. Parce que son sponsor. Attends. Son sponsor personnel, c'était pas Red Bull?
Je sais pas, je pense pas, non.
Il avait d'autres sponsors personnels.
Ah, parce que si Vettel perd Red Bull, ça me.
Non, quand même.
Je m'inquiète.
Quand même.
Dis donc, Sébastien, il va falloir trouver une autre écurie à la fin de la saison, là.
Voilà. Donc, 4 magnifiques actus, hein, que nous vous proposons cette semaine. Voilà.
Avec un peu de chance, hein, si Steph Core participe, il aura un droit de réponse, hein, comme
non plus cette semaine. Ah bah oui, forcément.
Je pense que, Ben, il faut qu'on s'inscrive pour la prochaine émission.
Ah oui, parce qu'il faudra pouvoir le mettre en application.
Sur ce, on va passer aux citations.
Ouais.
Qui veut commencer?
Moi, c'est une de Bernie sur... on va reparler de Valence, hein, mais bon. C'est Bernie qui dit qu'il est content qu'on continue à aller à Valence parce que les équipes et les sponsors sont contents d'aller sur ce circuit.
Barrer les mentions inutiles.
Donc, les sponsors sont contents. Voilà. Si les sponsors sont contents, pourquoi c'est vraiment con d'y aller qu'un an sur deux. Hein, voilà.
Vu qu'on est en Espagne, moi je rebondirai avec une réflexion d'un pilote espagnol qui s'appelle Fernando A. Et qui a déclaré... Jamais je ne serai un pilote payant. Si je devais payer pour courir, j'arrêterais. C'est impensable. Fernando, peux-tu nous rappeler le sponsor de ton écurie, s'il te plaît, hein? Peux-tu te rappeler dans quelles conditions tu as acquis ton baquet chez Ferrari, hein?
D'une certaine façon.
Voilà, il a quand même payé Kimi Raikkonen pour pas rouler. Oh non, non. Si le mec il a pas payé pour son baquet, voilà, quand même.
On lui a payé son baquet. On lui a offert.
C'est vrai que c'est un cadeau.
Ça. Voilà.
J'imagine à Noël il déballe la prochaine Ferrari.
Ah merde. Oh.
Mais qu'est-ce qu'elle est moche. C'est quoi cette bosse, les gars? Qu'est-ce que c'est que ce travail?
Le siège il était pas derrière avant. Ah, une biplace.
Ouais. C'est pour Nigel Mansell, non? Ils se sont trompés.
Non, c'est pour pouvoir mettre Massa devant.
Qui sache ce que
non, c'est mais, non mais c'est, ça se trouve c'est vraiment un hommage à Niki Lauda.
Je suis tellement ému que... Voilà.
laissez ce silence honteux après sa phrase.
Tu dis ça, mais c'est moi qui monte, tu dis.
Moi, une petite citation de Joe Ricciardo.
Oula. Oui. Oh, ça sent la perle.
C'est tout petit. Oui, ils essaient de dire qu'il est italien. Donc, Joe Ricciardo, c'est le père de Daniel Ricciardo. Et il semblerait qu'en Italie, ils essaient de se raccrocher à ce qui reste. Et ce qu'il y a de plus proche d'un Italien, c'est Daniel Ricciardo.
Intéressant.
Parce qu'en effet, en fait, son père est né en Calabre, mais il a immigré en Australie à l'âge de 7 ans. hein, il a épousé une Australienne, tandis que Daniele Ricciardo, donc évidemment le nom, hein, il est d'origine italienne, mais il est né à Perth. Il est bien Australien. Mais bon, faut bien se raccrocher à ce qu'on peut. Hein. Voilà.
Surtout que j'adore cette passion pour l'Italie, pour se raccrocher à un pilote italien. Enfin, s'en fout, ils ont Ferrari, quoi. Enfin, bon, quand tu me diras, cette année, c'était peut-être l'année pour qu'un pilote italien fasse un peu d'ombre à Ferrari. C'était le moment ou jamais.
Oui, ouais, enfin, Trulli.
Mais pour le moment, Trulli a fait de l'ombre à Ferrari.
Et Gus, une citation ?
Oui, une citation de Lewis Hamilton, qui déclare « À la fin de l'année dernière, on a mis la voiture de Jenson derrière la mienne, et en m'asseyant dedans, j'ai pu mettre les rétroviseurs dans la position que j'ai voulu. Et là, tous m'ont dit que ça allait être moins efficace aérodynamiquement. Je leur ai dit « Essayons-les quand même !» Et en réalité, le changement s'est avéré neutre aérodynamiquement. » Bon, dans un premier temps, c'est toujours bon de rappeler que les ingénieurs sont des grands têtus, et qu'il faut parfois aller un peu contre eux, parce qu'ils ont du mal à changer d'avis. Mais c'est surtout sur l'excuse des rétros qui doit pas être une excuse cette année, parce que maintenant qu'il y a les rétros là où il veut, on va l'attendre au tournant, quoi. Il faut pas qu'il reproduise ce qui s'est passé derrière, parce que les rétros, ça ne sera plus une excuse. Oui. Ouais, enfin, je pense qu'il sera un peu derrière.
Messieurs, on va passer à la deuxième partie du quiz.
Oui, à partir où on gagne, tu me dis.
Ah.
Voilà.
À partir où on égalise.
Oui,
ne rentrons pas dans cette dynamique de trash talk là. Laissons-les pavaner et puis on verra dans 5 minutes.
Ouais, on verra surtout à la fin de la saison, hein. Donc.
Ouais. Regarde le mec qui part déjà perdant aujourd'hui.
Moi, j'adopte la philosophie Alonso. Il faut être devant en novembre. Oui.
Messieurs, nous vous écoutons.
Très bien. Donc, vous avez 5 minutes pour répondre à la question suivante. Quel pilote français reverra-t-on dans le paddock ce week-end ? Top chrono.
Outre les trois titulaires, évidemment.
C'est le pilote commissaire ?
Non.
Est-ce qu'il participera à une course de soutien ?
Pardon ?
Est-ce qu'il participera à une course de soutien ? Je sais qu'il y a Sarah Alfredsen qui va participer à la course.
C'est sur de la monoplace ?
Non.
Ça sera sur le circuit ?
Oui.
Bourdet ?
Sur de la Porsche ?
Non, pas Bourdet.
Est-ce que c'est un pilote qui aujourd'hui vit en Australie ?
Oui.
Ah, intéressant. Oh, c'est un pilote de F1 ?
Oui.
Prema ?
Oui. Dans quel contexte ?
Il y a une coupe Porsche ?
Non.
Ça sera sur le circuit de Melbourne. Hein.
Sur le circuit de Melbourne.
Ce week-end.
C'est pas de la monoplace. C'est de la voiture de tourisme, quand même.
Oui.
Ah, il va présenter la Audi e-tron, non ?
Non. Il est plus pilote.
La Toyota, alors ?
Non plus.
La V8 Supercar ?
Voilà.
Ouais, j'ai dit !
Oh, ça rend pas tout.
On a marqué, oh, yes !
On égalise ! Donc, ah, j'ai dit, on est des tueurs.
Oui, bon, n'armenez pas trop. Donc, effectivement, Alexandre Prema s'est exilé en 2012 en Australie et il participe à la saison entière de V8 Supercars. Et donc, j'ai trouvé que on a trouvé qu'avec Ben, c'était un bon moyen de revenir sur la carrière de Prema, qui a été un peu en dents de scie. Donc, il a commencé la monoplace en 2000 en Formule Campus, comme beaucoup de pilotes français, après tout. Il est passé après en Formule Renault, il a fait 2 ans en championnat de France, puis en Eurocup. Et il a participé après à la saison inaugurale de F3 Euro Series. Il avait comme coéquipier un certain Olivier Plat, qui était aussi un Français au sein de ASM. Il a passé 2 ans, au bout desquels il a terminé... il a remporté les Masters de F3 de Zandvoort, ce qui n'est pas une mince affaire, vu qu'il y avait 46 engagés quand même, dont certains Lewis Hamilton.
Oui, en plus, c'est considéré comme, une sorte de championnat du monde.
Ouais, avec Macao.
Les Masters de Zandvoort.
Et donc il a débouché chez Hart, donc qui était la grande sœur de l'écurie ASM en GP2. Le souci, c'est qu'il a eu des coéquipiers assez performants. Est-ce que vous vous rappelez qui il avait comme coéquipier ?
Il a eu Rosberg, non ?
Voilà, Rosberg et Hamilton, effectivement. Ouais. Donc Rosberg en 2005 et Hamilton en 2006. Donc c'est vraiment pas de bol parce qu'il est tombé sur les deux champions de l'année où il est passé.
Ouais, parce qu'à ce moment-là, quand il est arrivé en GP2, c'était un des grands espoirs du sport auto français.
Ouais, pour accéder
en tout cas. Après, il a fait une carrière dans d'autres disciplines.
Ouais. Donc en GP2, il a quand même remporté 3 victoires en 44 courses, si je fais bien le calcul. Et entre ces deux saisons de GP2, il a participé à la fameuse discipline de la 1 Grand Prix.
Ah oui.
Pour le compte de l'écurie française. et qu'il a remporté avec Nicolas Lapierre.
Tu dirigeais par Panis d'ailleurs à l'époque, non ?
Oui, c'était Panis, ouais,
qui... Oui, et c'était Dams qui était l'écurie qui équipait la monoplace qui était là pour le support technique, et effectivement Panis était capitaine de l'équipe. Et donc avec Nicolas Lapierre, ils ont gagné le premier titre de l'Ain Grand Prix, une grande discipline qui restera dans les mémoires.
Mais on l'a gagné, je pensais pas.
Ouais,
oui, on l'a gagné.
Après, il y a eu l'Irlande qui l'a gagné, ouais, c'est très bien aussi.
Et au final, sa saison 2006 du GP2 a quand même débouché sur une journée d'essai en F1 en Chine. Avec la fameuse écurie Spyker qui avait mis en vente à des pilotes payants les 4 derniers vendredis d'essai de la saison. Et il avait pas été ridicule au volant de la MF1, de la Midland. La première séance, les cadors avaient pas tous pris part à la séance, mais il avait quand même fait le sixième chrono. Alors faut savoir qu'à l'époque les troisièmes pilotes avaient droit à des moteurs neufs, aux pneus neufs, donc pouvaient pousser beaucoup plus les voitures que les titulaires. Il était quand même dans le même dixième que Schumacher. On peut pas lui enlever ça, comme dirait Jean-Louis Moncey. Et la deuxième séance, il était un peu plus en retrait, et surtout, il était devancé par Thiago Montero, qui était titulaire à ce moment-là chez Midland. Derrière, il a enchaîné sur la saison 2007 par le DTM et les 24 heures du Mans avec Audi. Il est resté 3 ans chez Audi. Je sais pas si vous regardiez souvent le DTM, mais je me souviens d'une course à Zandvoort, justement, où il doit particulièrement bien aimer le circuit, où des consignes d'écurie ont fait qu'il a dû laisser la victoire au pilote Audi qui jouait le championnat, qui était deuxième derrière. Donc, il a officieusement une victoire en DTM et en tout deux podiums.
Il a eu un gros carton, je crois. Il y a eu une course de DTM, je crois, en Allemagne ou en Tournageur, où il a eu un gros carton. Enfin, il explose la voiture
Hockenheim, à Hockenheim en 2008, je crois. Je sais plus exactement. Oui, je me souviens, au premier tour. Et donc, voilà. Il a passé 4 saisons en DTM et 3 saisons avec Audi en endurance, où il a quand même remporté un titre. Il est champion des LMS en 2008. Malgré le fait de ne pas avoir remporté de victoire avec son coéquipier Mike Rockenfeller, ils ont fait sur les 5 courses 4 podiums. Ils ont fait 3 deuxième places, une troisième place et une quatrième place. Donc ils ont gagné le championnat sur la régularité face aux pilotes Peugeot. Et malheureusement, après 2010, Audi ne l'a pas reconduit, et en 2011, il n'a pas fait grand chose. Il a participé aux 24 heures du Mans avec le team Oreca en LMP2. Et donc, il a eu cette année l'opportunité de se rendre en Australie pour participer à toute la saison de V8 Supercars.
Ah,
pour le compte Gary Rogers Motorsport.
Il y a souvent, Force Paradise, où il y a souvent une épreuve où il y a une sorte de relais entre des pilotes V8 et des pilotes internationaux. Il y avait notamment Bourdais qui s'était illustré. Ouais. Donc là, il fait la saison, c'est bien.
Il fait toute la saison et... Et donc il y a eu ce week-end les premières courses officielles du championnat où il a fait des résultats encourageants plutôt pour un débutant. Il a fait 17e et 18e sur 28, je crois, dans les deux premières courses de la saison.
C'est très sympa à regarder les V8 Supercars.
Ouais, c'est très spectaculaire. Ouais. Hein, je crois que c'est sur des Ford et des
Holden. Voilà.
Holden, voilà. Qui est la marque australienne de bagnole.
Et donc ce week-end à Melbourne, il y aura 4 courses de V8 Supercars, il y aura une course de qualification et 3 courses hors championnat.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Oui, puisque le GP2 et le GP3 se déplacent pas en Australie, il faut bien trouver autre chose. Je crois qu'il n'y a pas de Porsche non plus.
Oui, il y a un championnat Porsche.
Une course de Porsche
Carrera Cup Australia. Et d'ailleurs, il y aura justement une Sarah Lefrenzen qui participera, qui fera son retour à la compétition. Il en profitera peut-être pour être le commissaire, parce que pour moi, il n'y a pas le nom du commissaire pilote qui a été désigné.
Non, ça n'a pas encore été dit, ouais. Bah, dans ce cas, c'est bien, ça fait 5-5.
Voilà. Ça y est, on remonte.
Je pense que la prochaine fois, on va sortir la question d'enfoiré.
Non, mais vous nous avez déjà dit ça tout
à l'heure. Ouais, non, mais là, on se chauffait, tu vois. On se
réglait. Nous, c'est que notre seule question, nos congénères ont eu droit à 2 questions.
C'est vrai. Et donc, ils ont tellement commencé à mettre le niveau bas qu'on a eu pitié. On s'est dit, faut qu'on fasse quelque chose, quoi. On avait même été obligé avec Shinji. J'ai dit à Shinji, mets-leur une question fastoche, genre la triple couronne, vas-y, voilà, c'est bon.
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai que la triple couronne, ça laissait pas.
Ah, on est bien d'accord.
Entre Graham Hill et.
D'accord.
C'est toi qui m'as dit, mets la question facile.
Je pense que c'est facile, mais facile, genre, ça va durer deux minutes. Moi, quand je fais des questions difficiles, ça parle de Peter Hag.
Ah, elle était quand même, elle était hard, celle-là.
Oui, c'est vrai, j'en connais.
Parce que oui, mais en même temps, on avait promis que vous alliez souffrir.
Fallait oui, mais pourquoi nous? Nous, on est responsable de rien. On n'a pas influé sur le choix de leur question.
C'est la faute de Fab.
Là, on est attendri pour les prochains, tu vois. Les prochains, on sera tout doux. Ah, je dis, on sera tout doux. Ah,
c'est vous qui aurez mal.
Un peu moins. Un peu.
Donc la prochaine émission, c'est encore nous, hein. On laissera Fab et Steph Core en vacances.
Ouais, ça dépend de Steph qui vient quand même pour se défendre.
Ah ouais, c'est vrai.
Il reste 8 mois avant novembre, là, quoi.
C'est ça, nous, on veut pas tuer le suspense tout de suite.
Je veux dire, faut que ce soit intéressant. Hein.
Voilà. Allez, passons, messieurs, au répondeur.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question ? Nous y répondons.
Alors, messieurs, dans le répondeur, nous avons trois messages. Avec d'abord un message de Sylvain qui nous dit « Salut le SAV, qui est, selon vous, le meilleur patron d'écurie actuellement ? Personnellement, j'aime beaucoup Franz Tost de chez Toro Rosso, mais vous, merci. »
Eh ben déjà, je n'aurais pas pensé à Franz Tost. Comme ça, c'est clair.
C'est le mérite d'être clair. Ah, Luis Pérez Sala, il met la barre haut, moi, je trouve.
Non, mais comme patron d'écurie, c'est les team principals, quoi. C'est Martin Wichmars.
Lewis Mars, Horner, Dominique Ali, je suppose, ça doit être dans ce sens-là.
Bah oui, moi, c'est dans ce sens-là que je le prends, en tout cas. Bon, en plus, il cite Franz Tost, donc.
Oui.
Non, mais du coup, t'as vu Gemalia et Tony Fernandez dans le lot.
Ils sont un peu hors catégorie.
Ouais.
Ah, eux, c'est des propriétaires.
Non, mais non, ils sont les team principaux.
Ah, oh, oui.
Ouais. Qu'est-ce non, moi, j'aime bien Martin Wichmars.
Ah,
chez McLaren.
Ah, j'en ai marre. Quand je commence à le traduire.
Mais
là,
c'est parce que c'est à cause des traductions, mais c'est vrai qu'il a, il a un côté plus humain que Ron Dennis.
On met ça à l'heure.
Oui.
Non, c'est je pense qu'il gère mieux les
pilotes. Chez McLaren.
Je pense qu'il gère mieux les pilotes, tout simplement.
Oh, attendons, la saison n'est pas finie.
Est-ce que j'ai dit
ouais, mais jusqu'à présent, il fait ça mieux.
Moi, je dirais Frank Williams parce que son écurie, elle est comme sur des roulettes.
De dire que j'ai coupé des blagues, Shinji, dans la dernière émission. Un peu mal, quand même.
Moi, je dirais Peter Sauber, parce que quand même, ce qu'il a fait avec son équipe, plus la reprendre.
Mais il est plus team principal,
bah non, mais il est quand même toujours un peu là. Dans ce cas-là, tu mets pas Franck, on parle pas de Williams.
Non, mais c'est ça. C'est les directeurs actuels.
Moi, je me suis penché sur Sauber cette semaine, et je me suis rendu compte qu'ils n'ont jamais été plus loin que la 8ème place au championnat. Bon, on compte pas les années BMW, hein. Parce qu'en 2009, ils étaient très bas.
Ah bon,
mais sinon.
Ah, en dessous, tu veux dire, oui.
En dessous de 8ème, ouais.
Ah non, ils ont quand même été au-dessus de 8ème, les gars.
Oui, non, mais... Si, hein, 2001-2006, je crois, ils ont fait entre 4 et 6, chaque fois. Donc c'est une bonne équipe de peloton, en fait. Qui fait pas de vagues, mais qui est chaque fois au rendez-vous, quand même.
Même là, cette année, hein, ça a l'air bien.
Ouais, elle a l'air pas mal. Bon, maintenant, je crois que c'est un magazine allemand qui a fait l'analyse des perfs sur des longs runs. En plaçant Mercedes devant, donc rythme de course. Sauber deuxième. Je pense que c'est un peu exagéré quand même. Je pense qu'elle est bien, mais à ce point-là.
Non, puis en plus, un magasin allemand qui met Sauber et Mercedes en deux premières places. Quoi.
Quelle surprise.
Ceci dit, apparemment, le train arrière de la Sauber a inspiré le nouveau train arrière de chez Red Bull. Hein, donc,
Oui, ils ont même dit qu'ils étaient fiers.
Bah, tu m'étonnes. Être copié par nous. Ouais, d'habitude, c'est l'inverse.
Non, sinon, il y a qui d'autre?
Horner, c'est pas très original, mais quand même, passer de l'écurie Jaguar à ce qui est devenu Red Bull,
il a quand même emmené cette équipe vers des sommets. Non, puis même un Brown pour ce qu'il a fait, justement, quand l'équipe portait son nom, c'est quand même pas mal aussi.
Oh, je suis pas d'accord. Moi, je reste quand même sur mon idée que la Brown, c'est quand même la voiture la plus chère de l'histoire.
Non.
Quoi, avec
puis Brown, enfin moi j'ai quand même souvenir de Brown de quand il est arrivé chez Honda, le souvenir de gestion d'équipe, d'erreurs qui étaient faites, qui n'étaient pas dignes quand même d'un mec comme Brown. Moi, je suis pas sûr que Brown ce soit un très bon patron d'équipe. C'est peut-être un bon ingénieur, un bon leader technique. Maintenant, en patron d'équipe, d'ailleurs, on voit chez Mercedes, enfin sincèrement, chez Mercedes, il n'a pas fait grand-chose non plus. Pour le moment, en tout cas.
Pas encore.
Ouais, voilà. On regarde l'autre qui l'espère.
Parce que, au final, sa seule bonne décision, ça a été de sacrifier la voiture de 2008 pour se concentrer sur celle de 2009.
Carrément. Et de racheter l'équipe.
Ouais, pour une livre sterling, moi je l'aurais racheté aussi, tu vois.
Surtout pour la revendre à Mercedes après, quoi. C'est rentable comme investissement.
Bon, je remarque que personne n'a cité Stefano Dominicali. En même temps, Stefano, il est responsable de rien. C'est pas lui qui décide ça. C'est pas lui qui décide la voiture. J'aime bien cette petite phrase de Dominicali qui dit, ah non, mais moi je dessine pas la voiture. Moi je donne juste les moyens des autres. Il y a quand même au passage le fait que moi je leur ai donné les moyens. Mais la voiture, c'est pas moi qui suis responsable, donc le mec se dédouane un petit peu quand même. J'avoue que là, sur le coup, Stefano, il a vachement baissé dans mon estime. Moi, je mettrais Boullier.
Oula.
Ouais, bah, il a pas eu...
C'est pas que je suis pas d'accord.
Sur la saison 2011, bof.
Sur la saison 2010, ouais. Oui. Maintenant, je pense que sur la saison 2011, il a sombré en fait face à la difficulté. Maintenant, c'est justement ce qui m'intéresse, quoi. C'est que on voit que contrairement à par exemple Christian Horner, qui a pas eu pour le moment de saison difficile, enfin, il a quand même de l'or entre les mains, le mec. Donc, s'il fait pas bien son boulot, il peut pas être chez Red Bull. Boullier, il a quand même eu une année l'an dernier où il a eu pas mal de tuiles. Il a essayé de tenir la baraque. Il s'en est pas forcément très bien sorti, mais bon, il a tenu la tête hors de l'eau. L'équipe est toujours là. Puis il faut pas oublier ce qu'il a fait effectivement en 2010 après le Crashgate.
Je le mettrais devant. C'était une bonne saison.
Oui.
Ça va faire enrager tous les Lotus haters qu'on a sur.
Ah ouais, non mais à un moment donné, ça faut que je l'ai déjà dit aujourd'hui sur le site, mais j'en ai marre, quoi. Arrêtez de prendre un article, là, je le vois sur Ferrari aujourd'hui. Ferrari qui parle de voiture cliente, t'en as un qui se ramène pour faire un plaidoyer contre Ferrari. Mais parlez juste du sujet, quoi. Que vous aimiez ou pas une équipe, soit Lotus, Ferrari, McLaren ou un pilote, tout ça. Mais à un moment donné, faut arrêter, quoi. Moi, des fois, j'en viens en me disant, je vais même pas répondre parce que c'est pas intéressant, alors je pense qu'il y a quand même des choses à débattre derrière et que c'est justement, l'objectif de ces commentaires, c'est de nous permettre de débattre. Le drive-thru, clac.
J'étais sûr que j'allais te
lancer. Ah ouais, non, mais ça sera bon. En ce moment, j'en ai marre des haters, là. C'est bon.
On peut parler de toi, là, presque.
Moi, j'ai eu un choc dans les commentaires de ma chronique de lundi. J'ai appris qu'il y avait des gens qui aimaient Singapour.
Oui.
Ça m'a choqué.
Et donc
bah, ça m'a choqué. C'est pas possible. C'est quand même le circuit qui a le plus moche virage du monde. Le virage numéro 13.
Mais ça, on peut être d'accord avec toi tout en aimant Singapour quand même.
Voilà, j'ai
non, j'ai pas le virage. Voilà. Attends, c'est quel le numéro 13?
Le 13,
c'est triple chicane tout point.
Non, il est bien,
c'est l'espèce de... les premiers enchaînements des S de Suzuka.
Oui, un peu petit.
Eh ben, ils l'ont fait en plus petit.
Non, mais sincèrement, c'est original, quoi. Enfin...
Tu sais, les fameux picots de la mort, là, ceux qui...
C'est original, les mecs.
Les trucs qui font 10 cm et qui pètent des suspensions.
Voilà, c'est quand t'arrives à Monaco, t'as la sortie du tunnel qui te fait peur, ou t'as le premier virage, enfin t'as tous les virages qui te font peur, là t'as un virage où t'as peur. Tu te dis, celui-là, si j'arrive à en sortir, je suis libre.
Pour d'ailleurs, c'est bizarre que Massa n'ait pas été victime, alors qu'on a vu qu'en Inde, il faisait deux fois les mêmes erreurs.
Sinon, Dino, une autre question?
Une question qui a été posée sur fanf1.com par Falcon.
Très bonne question.
Vous allez voir la réponse. J'ai un peu préparé.
Oui.
J'aurais pas préparé.
Parce que, avant que tu dises la question, c'est vrai que, sur le coup, je crois qu'on a tous pensé la même chose.
Et vous allez voir qu'après, après qu'on aura expliqué, vous penserez tous la même chose.
Nous,
donc la question de Falcon, la réaction de Falcon concernait donc les modifications apportées au règlement 2012, les dernières modifications. Et voici ce qu'il disait, c'est une bonne idée de limiter l'utilisation du DRS sous la pluie, mais il me semble qu'il y avait déjà une réglementation à ce niveau. Cette décision était peut-être alors à la charge de l'écurie elle-même, et que pour éviter les abus et le danger de l'utilisation par mauvais temps, ce sont désormais au commissaire que reviendra cette tâche. Alors, en effet, parce qu'il faut revenir sur les ajustements, c'est-à-dire que la FIA a dit que désormais, quand tu aurais de mauvaises conditions de visibilité, notamment sous la pluie, hein, sous-entendu, ce sera à la discrétion du commissaire de course, donc de Charlie Whiting théoriquement, de décider si le DRS est activé ou pas. Et là, tout le monde s'est dit, mais voyons, sous la pluie, le DRS, on n'a pas le droit de s'en servir.
Voilà.
Et c'est vrai que, alors du coup, faut regarder dans le règlement, hein, parce que le règlement, alors c'est géré. Par l'article 3.18.2 du règlement technique. Alors déjà, il y a un truc bizarre, c'est le règlement technique qui gère l'utilisation sportive du DRS.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est l'article 3.18 sur l'aileron arrière. Donc dans le 3.18.1, vous avez toute l'explication sur les différentes cotes que doit respecter l'aileron arrière en hauteur, en écart et compagnie.
Excuse-moi, Dino, le 3.18, c'est sur l'aileron arrière ajustable.
Oui, 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 voilà.
L'aileron arrière, c'est un peu avant.
Oui, voilà, c'est sur la, enfin, sur cette partie-là que...
Il le connaît, le règlement.
Ouais. Et donc, le 3.18.2, il explique justement dans quel cas sont autorisés l'aileron arrière ajustable. Donc, il est libre d'utilisation jusqu'à la course, c'est-à-dire dans les essais, en qualification et même dans le tour de mise en grille. Vous avez le droit de vous en servir autant que vous voulez. Puis en course, il peut être activé. Donc ça, la règle, elle est connue. Hein. Si vous êtes à moins d'une seconde du pilote qui vous précède, vous pouvez l'activer dans la zone prédéfinie au préalable. Là, en Australie, il y en aura deux. La ligne droite des stands et la ligne droite qui est après le virage 2 et juste avant le virage 3. Pas forcément le meilleur endroit, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, il y a les exceptions, hein, bien évidemment. C'est sous la pluie. Hein. Le problème, c'est qu'il y a strictement rien dans le règlement qui vous dit que c'est interdit sous la pluie.
D'accord.
Il y a rien. Alors,
mais l'an passé, par exemple, je me souviens à Silverstone, par exemple, il y avait de la pluie. Et pendant une des séances d'essais libres, la piste était suffisamment sèche que pour que certains pilotes roulent avec des pneus slick, notamment Hamilton. Et donc, lui, s'est servi de son DRS.
Oui, et d'ailleurs, on s'est posé la question.
Ah, oui.
Et moi, j'ai compris la nouvelle réglementation comme étant la suivante. C'est-à-dire que même si les pilotes montent des pneus slick, si la visibilité n'est pas jugée suffisamment bonne par les commissaires, l'utilisation du DRS ne sera
c'est
autorisée.
Ça, en fait.
En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris la...
Il y a justement l'épisode de Silverstone, et ils avaient convoqué donc Hamilton pour lui demander pourquoi il l'avait utilisé, et Hamilton leur avait expliqué, bah voilà, parce que j'ai mis les pneus slick sous la pluie, parce qu'en fait, le lien, il est fait par rapport aux pneus. C'est-à-dire qu'avant, c'était simple comme concept. C'est-à-dire que quand il pleut, on met des pneus pluie, donc on interdit l'utilisation du DRS quand on a les pneus pluie. C'était logique.
Logique.
Le problème, c'est qu'il y a des mecs qui mettent des pneus slick quand il pleut encore un peu ou que la piste est encore un peu mouillée. Donc le problème de sécurité est un peu toujours présent quand même. Mais ils pouvaient utiliser le DRS. Donc il y a eu des éclaircissements qui ont été apportés par les commissaires en discussion avec Hamilton. Voilà. Et on a fini la saison comme ça. Et effectivement, il y a des changements qui ont été faits cette saison qui donneront donc le dernier mot au commissaire de piste. Et d'ailleurs, j'ai dû faire un test sur F1 2011. Parce que c'était simple pour rien le savoir. Donc je suis allé sur ma PS3, j'ai mis F1 2011, je me suis dit, bah voilà, je vais aller sur Monza, il pleut, hein, je vais sortir faire un tour avec les pneus pluie. Effectivement, quand il pleut avec les pneus pluie, vous pouvez pas mettre le DRS.
Ça bloque.
Mais s'il pleut à fond, mais il pleut bien, hein, et vous avez l'idée un peu folle, déjà, c'est un peu barré, de mettre les pneus slick, et
bien
vous pouvez en plus activer le DRS. c'est relativement mortel puisque voilà, mais donc voilà, c'était lié au pneu. Là, cette année, ça le sera plus, enfin ça le sera, mais si jamais la direction de course décide que en fait les conditions, même avec des pneus slick, ne le permettent pas, ils interdiront de mettre une pneus slick.
Voilà,
sinon la base reste fondamentalement
la même. C'est plus un, je dirais pas un éclaircissement, mais un cadrage,
voilà.
Finalement.
Oui,
ah, et j'espère, puis Falcon, voilà.
L'année dernière, ça a
posé la question, on a trouvé la réponse.
Ouais. Oh. Et puis l'année dernière, ça a dû faire l'objet d'une directive technique, qui est une recommandation de Charlie Whiting, mais qui est pas inscrite dans le règlement.
Là, voilà, c'est dans le règlement.
Ouais.
Y a pas de souci. Une autre question, Nino ?
Oui. Alors, une question. Bon, je rappelle, hein, pour les questions, vous pouvez nous envoyer vos questions. Que ce soit, vous avez vu, on a eu des questions qui nous posent des questions. De débat, tout simplement, de discussion, avoir notre opinion sur quelque chose, mais aussi des questions, des éclaircissements à apporter. Donc c'est sur répondeur@savf1.fr, le tout sans accent et en minuscule. Et donc on a une dernière question qui est « Bonjour à tous, je suis un peu troublé par quelques solutions adoptées par certaines écuries concernant les échappements. Pourriez-vous donc m'expliquer par exemple les solutions de McLaren et Red Bull ? Simple curiosité. » Et c'est une question de Pat F. de Maranello.
Bah c'est simple, hein. L'objectif, c'est de continuer à souffler alors que c'est interdit.
Attends, Ben. On a un expert en technique.
On a notre expert.
Je fais la version simple.
On l'a attendu des années, maintenant on en profite à fond. Et oh.
Ça me fait penser que tu n'as pas reçu mon salaire. J'ai bien compris, Fab a été payé en Smarties.
Oui, tu auras un timbre.
Oui.
J'aurai quoi ?
Un timbre.
Mais un beau timbre.
Un beau timbre. Un timbre rouge avec des dents et tout, la qualité.
Soit. Donc, pour revenir sur la question, les concepts d'échappement McLaren et Red Bull, c'est les mêmes. C'est ça a pour but de continuer donc à souffler le diffuseur. Sauf que le flux d'air qui vient de l'avant de la voiture, qui doit passer au-dessus du diffuseur, lui, il faut pas qu'il soit altéré par l'échappement. Si l'échappement il s'ouvre dessus, ça va diminuer l'efficacité du diffuseur et il va falloir trouver une solution pour que l'air il passe sous l'échappement. Donc du coup sur la McLaren ça se traduit par la bosse par laquelle l'échappement sort. Donc en dessous de la bosse l'air il va vers le diffuseur, vers le dessus du diffuseur et dans la bosse l'échappement il est dirigé vers le haut et donc il est dirigé vers le diffuseur. Le Red Bull c'est pareil sauf que c'est un peu plus subtil vu qu'il y a le tunnel qui lui fait passer l'air sous l'échappement pour que lui il y aille directement sans vraiment être sans que le flux d'air soit altéré. Je fais un petit rappel aussi sur l'inclinaison des échappements qui est obligatoirement dirigée vers le haut, au minimum 10 degrés, entre 10 et 30 degrés vers le haut. C'est pour ça qu'il faut utiliser une petite combine que les écuries ont trouvée, ça s'appelle l'effet Coanda. C'est un effet qui est très simple à observer. Quand vous faites votre vaisselle, vous prenez une cuillère, vous la mettez sous le jet d'eau et vous voyez que l'eau elle va couler sur le long de la cuillère plutôt que de tomber directement tout droit, plutôt que de rebondir dessus. Ça se traduit par le fait que le fluide qui est l'eau, il coule à vitesse plus rapide que l'air qui est autour, et donc il va venir se greffer sur la surface qui est courbée. Donc, pour utiliser ça en F1, on a mis derrière les échappements une surface qui s'incline vers le bas, pour que malgré l'interdiction de l'inclinaison vers le bas des échappements, le flux d'air se dirige quand même vers le bas et il aille dans un trou qui est du sol pour aller en dessous du diffuseur. Et du coup, en augmenter l'efficacité. Alors, faut savoir que c'est super dur à tester en soufflerie parce que les infrastructures, elles sont pas développées pour. Il faudrait faire un moteur à l'échelle de 60% pour le tester et c'est très coûteux et voilà. Donc, c'est super dur à tester en soufflerie. Donc, t'es obligé de le tester lors des essais privés ou des séances libres. Et ça pose des problèmes parce que Red Bull ne sont pas très contents, ce qui peut se voir sur les photos par le sol qui est un peu brûlé, le sol, il y a des morceaux un peu bizarres sur le sol, quoi.
Mais en fait, ça veut dire que les échappements tels qu'ils sont situés actuellement, par exemple, je pense à la McLaren,
oui, ils souffrent dans le diffuseur. Il y a un trou pour aller dans le sous le diffuseur.
Ils sont barrés, les mecs.
Ils trouveront toujours des combines.
Ouais. Bon, vous m'excusez 5 minutes, je vais chercher une aspirine.
Oui. Non, mais t'as vu, t'as l'effet Koh-Lanta, tu vois, quand tu mets ta cuillère. T'as de l'hydrolière qui apparaît, quoi. Il faut pas
faire les et l'objectif de tout ça, c'est pour aller plus vite.
Faut moi, je préférais ma réponse. Hein. Elle était beaucoup plus simple. Non, mais c'est vrai que moi, l'aspect technique, c'est pas tellement... pendant les lives, parfois, il y avait beaucoup de questions un peu techniques.
On s'était posé des questions avions, techniques quand Ben était au live. Hein. Si ça n'est pas passé, bah non, vous savez pourquoi.
Quoi ? Vous n'avez pas un doctorat en mécanique des fluides comme tout le monde ?
Voilà, nous espérons que Pat F. de Maranello aura bien saisi. N'est-ce pas, Pat ? Nous t'enverrons un...
Et on espère que lui, il en ait un doctorat en mécanique des fluides. Ça peut être utile dans son boulot.
Ah bon, tu sais son travail, j'ai dit ? Tu connais Pat F. de Maranello ?
Il est médium.
Oui. Donc c'est tout pour les questions, Dino ?
Oui. Enfin, on peut passer à la question.
Bien sûr, la question.
Cette question que personne nous envie. Mais que tout le monde se pose secrètement. La semaine dernière, nous vous rappelons, nous vous avions posé la question de savoir quel super-héros vous aimeriez avoir, enfin nous aimerions avoir, au volant d'une Formule 1. Enfin, rapidement, voilà. Ben, Gus, quelle aurait été votre réponse? D'accord, ok, on va passer à la question cette semaine.
Donc, l'homme invisible.
Non, moi j'aurais dit Nicolas.
Superbe.
Non, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ma musique de campagne, il c'est celle de Superman.
Cette émission dérive. Donc, messieurs, la question essentielle de la semaine, messieurs, est de savoir, selon vous, quel sponsor insolite aimeriez-vous voir apparaître en Formule 1 ?
Durex.
Tampax.
Il n'y a pas déjà eu Durex ?
Bon, bah, merci de me piquer mes idées.
Non, mais le pire, je crois que Durex, il y a déjà eu.
Durex, je crois qu'il y a déjà...
C'est pas sur une esquette ou un truc dans le genre.
Non, moi, je sais. Ce qui serait très drôle, c'est que on a plein de boissons énergétiques. On a Red Bull, on a Monster chez Mercedes. Ce serait Contrex.
Oui, ou Candia, tu vois, le lait.
Contrex ou Candia, je trouve que...
Ce serait sympa, une eau minérale.
Alors, ouais, maintenant, il y a Ferrari qui a TNT.
Ouais, mais c'est une boisson énergétique aussi.
Oui, mais ouais, non, mais c'est rigolo.
Ou sinon, Lotus chez Lotus.
Tu vas m'obliger à sortir des photos, je te dis.
J'adore parce qu'après le déodorant, après le shampoing antipolliculaire, le PQ, oui. Superbe.
Non, sinon, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de sympa
Imodium.
Des dragées fucas.
Mais tu vois, ça c'est la partie, tu vois, sur les échappements, tu les mets, hein, tu vois. Viagra, il y a déjà eu.
Enfin, ah oui, Marc Martin,
mais ouais, en NASCAR, oui, Marc Martin, qui a 50 d'années, qui faisait des courses en NASCAR avec Viagra écrit en gros sur sa voiture. C'est quand même quelque chose qu'il fallait regarder. Et le mec le prenait vachement avec le sourire, quoi.
Non, moi j'aimais bien l'époque où Red Bull se faisait sponsoriser par un film à Monaco. Oui.
Ah ouais.
C'est dommage qu'ils font plus ça. Parce non, que maintenant qu'ils sont champions du monde, ils pourraient demander plus, tu vois, plus d'argent.
Ouais, pourtant, à l'époque, pourtant, ils avaient eu la chance de faire le podium. Oui. Quoi. Ouais.
On se rappelle tous de Coulthard avec sa magnifique cape.
C'était beau.
Ah oui.
Avec Karen au pied du podium.
Magnifique podium de Monaco d'ailleurs.
Ah oh non, arrête. Hein.
On va pas
y passer la journée.
Il était beau à l'époque. Après, il a changé. Voilà, c'est voilà.
C'est pas grave. Moi, je me rappelle. J'ai un autre souvenir de podium au Monaco où il y avait un pilote tout petit, un pilote tout grand. Le pilote tout petit, il était là, il avait gagné, et le pilote tout grand, il était quand même au-dessus du pilote alors qu'il était une marche en dessous.
Ouais, enfin les marches à Monaco, elles sont pas très hautes non plus.
Ouais, c'était surprenant quand même.
Mais sinon, comme sponsor, ah bon, Kadhafi et Ben Laden, ça a déjà été fait. Hein, donc c'est, alors je crois que c'est Kadhafi qui a sponsorisé William, c'est Ben Laden, ça a failli sponsoriser.
Je crois que c'est Ben Laden qui a sponsorisé William.
Et donc c'est Kadhafi qui a failli sponsoriser McLaren.
Et sur les Jordan, au début, il y avait écrit Osama sur les côtés.
Et donc comme sponsor, c'est pas insolite, mais Coca. Ça fait des années qu'on en parle.
Ah oui,
ils sont
McDo
pas...
aussi.
Ah, sur la
McDo,
Ferrari.
Ouais. Mais Coca sur Ferrari, ça serait pas mal.
Ah,
ouais.
Ah oui, ça ferait.
Ah, McDo, il y avait eu Bourdais aux États-Unis.
Oui. Ouais.
Mais ils ont.
Ah, il y a Quick.
Je regardais les.
Oui, la minorité.
Oui, sur Marocain.
Oui.
Dommage. Mauvais placement de produit.
Mais ils ont plus beaucoup de sponsors chez Marocain, à part Marussia. J'adore leur logo. Moi, j'ai l'impression que c'est une pub pour le prochain Transformers.
Oui, non, mais c'est ça, en fait. Ah bah hey, ils ont un budget logo qui est énorme. Bon, le budget conception voiture est pas énorme, mais le budget logo il est...
Parce que bon, ils ont fait quoi? Ils ont acheté un châssis d'IndyCar après tout, c'est
oui,
juste ça.
Ça y ressemble fortement en tout cas.
Ouais.
C'est pour ça que ça a raté les crash tests. Ah, là un bon sponsor Euro NCAP, tu vois, un beau sponsor Euro NCAP sur une F1, ça serait magnifique.
À Pescarolo en endurance, ils ont... c'est comment ça s'appelle, les centres de contrôle technique, la
autoservice. Ouais, auto.
Noroto, non, c'est pas ça.
Non, ouais, c'est Autovision.
Oui.
Et la Sarthe.
Ah non, mais il faudrait avoir, c'est le truc où il y a Prost.
Profil plus.
Voilà. Non, mais Profil Plus. Alors, la pub Profil Plus pour Prost, elle est magnifique.
D'un naturel.
Oui. Il a un petit côté, finalement, comment dire, Giroud.
Elle est malheureux. Mais les gens avec la cristalline, elle est si bonne.
Finalement, le sponsor le plus insolite, ce serait le SAV sur une monoplace.
Ça a déjà existé.
Ça a déjà été fait. C'est
ça a déjà été fait. Bon bah fin F1 alors sur une monoplace.
Ouais, ça n'a jamais été fait.
Ça peut se faire.
Mais c'est vrai que le SAV, ça a déjà été sponsorisé. C'était sur l'écurie Mecatec de.
Oui.
Ah bah c'est pas. C'est sur une F1, je te dis.
On peut préciser. Une
F1 virtuelle, mais c'est sur une F1.
Vous savez que vous devez ça en partie à
moi. Oui, je sais, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Donc oui, c'est GP4 ouais. Facile, c'est ça. En fait, pour faire ta pub.
Je vais pas y jouer.
T'as pas envie de faire F1 2011 facile. Mais...
Non, disons que j'ai pas trop accroché à F1 2011 alors.
Tintin. Et sur cette révélation,
bon, le SAV de la F1 vient de mettre un chroniqueur.
Sur cette monstrueuse révélation, on va arriver à la fin de cette émission.
Oui.
Déjà. Donc on vous rappelle, le Grand Prix d'Australie, c'est ce week-end, après 4 mois d'attente, oui. Ça recommence.
Nous serons d'ailleurs en live courageux. Pour les qualifs.
Voilà. Alors, pour les plus courageux, faut rappeler que les essais libres, ça commence vendredi à 2h du matin. Ouais.
T'as noté
bah, je note. Ah bah ça, je sais que c'est ma corvée de l'année. Voilà. Oui, je suis samedi, le seul dans la rédaction qui ose se lever en pleine nuit.
Samedi, les essais libres, c'est à 4h, 2h de plus, c'est bien. Hein. Sinon, les qualifs, c'est à 7h du matin. Samedi,
et c'est sur Fun
en live. En live sur Fan F1 et la course dimanche à 7h Parce que c'est plus, ouais, c'est plus comme avant où c'était à 4h du mat et tout.
Moi, j'aimais bien 4h du matin.
Mais
ça,
oui,
c'est parti du folklore de début de saison.
C'est pour ça que, en référence à ta chronique, je ne veux pas que Melbourne soit de nuit. C'est-à-dire que, bon, ça serait sympa de nuit, mais je trouve que, déjà, en plus, c'est un circuit en plein jour, il y a une telle ambiance, que, voilà, c'est agréable de voir le matin, en pleine nuit, à 4h, t'es à peine réveillé, voilà, t'es tout à côté avec ton café, tu baves un peu, et tu vois la F1, il fait beau, tout le monde est heureux, et tu te dis, il y a un gros décalage horaire, et tu le sens.
Ouais, puis c'est le premier Grand Prix. Si on nous met plus tard, il va falloir attendre plus longtemps oui, avant de voir le Grand Prix.
Eh oui.
Non, franchement, de nuit, Melbourne, voilà. Autant Singapour à 4h du matin, je me lève pas. Hein. C'est valable aussi pour Abu Dhabi.
Ça, oh, le faux fan de F1.
À Valence à 4h du matin.
Moi, quelle que soit l'heure, moi je me lève. Oh, c'est pas dit, des fois ça arrive que le dimanche sur un malentendu.
Non mais, mais l'Australie, ce plaisir de, tu sais, d'attendre pendant 4 mois le retour de la F1, puis t'arrives et tu travailles, il est 4h10. Et tu
dis, merde, ça m'est arrivé une fois, mais j'ai eu de la chance, c'était le Grand Prix du Japon en 2007, c'est celui qui avait commencé, il y a eu une heure sur safety car.
Un petit prono pour la course?
On connaît celui de Dino déjà.
Voilà, c'est Kimi.
Non, j'ai dit tout le monde aimerait Kimi, donc on va dire Kimi, mais je pense plutôt Vettel. Ne déformez pas mes propos.
Moi j'ai envie de dire Button, je sais pas pourquoi. Pour pas dire Vettel, enfin, un peu plus original. Puis je sais pas, moi je sens que la McLaren est pas mal, donc je pense que McLaren pourrait le gagner. Et comme entre Hamilton et Button, je préfère Button.
En plus, il y a des risques de pluie. En cas
oui, il paraît qu'il va pas faire très beau.
Samedi, il devrait pleuvoir. Dimanche, pour l'instant, il prévoit des averses passagères.
Ouais, en tout cas, le soleil ne devrait pas être trop éblouissant.
Plus.
Moi, je m'en fous du manque d'originalité, je mets Vettel.
Ah, personne n'a pronostiqué Alonso.
On attendait que tu le fasses, mais apparemment,
bah voilà,
pas
non plus.
Allez, j'ai du courage, allez.
Bon, allez, Kimi.
C'est pas original. Moi, je connais des tops de la F1 en Europe.
Il va nous faire les 20. De toute façon, il va nous le pronostiquer 20 fois.
Oui.
Non, pas spécialement. Ça dépendra de ce week-end.
Alors d'ailleurs, on en profite pour vous dire que donc la semaine prochaine, ce sera l'autre formule du SAV. Hein. Là, on a fait le tour avec nos quatre chroniqueurs. Hein. Ce sera le retour du SAV où vous pourrez d'ailleurs nous faire parvenir dès la fin du Grand Prix votre top 10 de la course. Hein. Donc on rappelle, votre top 10 de la course, c'est votre classement sans les incidents de course, avec le côté affectif aussi parfois. Et sinon, donc on a un invité, ce sera Cédric pour l'Australie. Par contre, dans 2 semaines, il y aura aussi le SAV consacré au Grand Prix de Malaisie, puisqu'il n'y a qu'une semaine.
Allez-y.
Voilà, et on a toujours personne, donc n'hésitez pas à envoyer un courriel.
Vas-y, donne ton numéro. Vas-y.
N'hésitez pas à envoyer un courriel à contact@savf1.fr pour vous porter candidat pour cette émission. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire?
Surtout qu'ils ont rajouté une tribune.
Alors le concours de proposition, hein, on vous rappelle, vous avez jusqu'à mardi 18h pour répondre à cette question en cumulant tous les titres des champions qui ont une tribune à leur nom autour du circuit de Melbourne. Combien obtient-on de titres au total pour nous répondre? C'est à l'adresse concours@savf1.fr. Voilà, et puis bon, on rappelle hein, que avec votre réponse, vous devez nous envoyer une question qui servira à vous départager pour le Grand Prix de Malaisie.
Voilà.
Petit indice. Et sinon, bah, c'est tout.
Sinon, tout simplement. Oui, quelque chose à rajouter?
Petit indice, la réponse est 28.
Les gens, ils aiment
pas. C'est pour dire des trucs pareils.
En plus, ce sera coupé au montage.
Oui, voilà. Ouais, c'est pour ça que je me permets.
Mais tu pourras toujours le mettre dans les commentaires.
Oui, voilà.
Allez, sur ce, tout simplement, bonne course.
Bon début de saison.
Courage aux supporters de Ferrari.
Ouais, d'accord. Oui. Pourquoi tu dis ça? Hein? Oh, pourquoi? Hein? Oh. Qu'est-ce que t'as contre les fans de Ferrari?
Rien.
Je les soutiens dans une saison qui va s'annoncer difficile.
Alors, regarde-le qui ramène sa femme avec sa Mercedes, là.
Avec Ross Brawn qui a jamais rien fait dans
espèce de loser. Même votre écurie, ils sont ternes. Ils font grise mine. Hein. Nous, ils sont rouges, ils sont joyeux. Vous, ils sont gris. Ils sont déjà pessimistes. Ils portent déjà le deuil de leur saison. C'est beau, ça, je suis dit.
C'est pitoyable, surtout. Allez, ciao à tous.
Salut.
Bye bye.
Ciao.
Salut.